Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Noodles.
Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast TFTC, le podcast, c'est un nouveau nom. À mes côtés dans ce studio, Guillaume et Aurélien, comment allez-vous?
Bah ça va et toi?
Bah ça va super et toi, c'est le retour ou quoi?
Je sais pas, c'est le plaisir de vous retrouver.
Bah ouais, c'est le plaisir.
Pour ce premier épisode, nous avons le plaisir de recevoir Eric Toledano et Olivier Nakache, comment allez-vous?
Très bien.
Bah très bien, très
alors,
très bien.
Est-ce que vous pouvez vous présenter pour ceux qui ne vous connaissent pas encore?
Eh bien bonjour, Olivier Nakache, 50 ans mais j'en fais moins et... co-réalisateur, co-scénariste avec mon ami Eric Toledano qui est à ma gauche.
Dans cet épisode, nous allons nous pencher sur un chef-d'œuvre, ni plus ni moins, à savoir « Il était une fois en Amérique ». Sorti en 1984, Il était une fois en Amérique est le dernier film de Sergio Leone, film qui vient compléter ce qu'on appelle la trilogie du temps, série de trois œuvres, Il était une fois dans l'Ouest, Il était une fois la Révolution et Il était une fois en Amérique, qui raconte l'Amérique à travers trois périodes différentes. Une œuvre monumentale donc, qui n'a pourtant jamais obtenu une seule distinction majeure, que ce soit à Cannes ou aux Oscars, en plus d'avoir connu une sortie ratée aux États-Unis, avec des critiques mitigées et des entrées largement en dessous des attentes. Alors messieurs, la traditionnelle question qui ouvre ce podcast, quel est votre premier souvenir lié à ce film, et je vais commencer avec Olivier.
Le premier souvenir, il y en a beaucoup lié à ce film, c'est un choc, un vrai choc de cinéma, parce que il y a tout dans ce film, c'est un film matriciel, il y a comment Sergio Leone, donc c'est son dernier film, il est mort quelques années après, comment il arrive au paroxysme de son art, avec un casting incroyable évidemment avec Joe Pesci et De Niro, une maîtrise du temps, du flashback, une maîtrise du son et surtout aussi une adéquation avec la musique du film, qui est vraiment, c'est le dialogue du film, la musique qui égrène comme ça tout ce tout Il était une fois en Amérique. C'est quelque chose qui est vraiment incroyable et on se rappelle tous de cette flûte de Pan qui résonne en nous. Je rappelle pour les auditeurs que c'est le même joueur de flûte qui a fait la musique de La Chèvre aussi.
Ah, donc, comme quoi, encore je me disais, j'ai vu, je me dis, c'est vraiment la même
flûte. C'est le même flûtiste.
Damn, il n'y en a qu'un en fait.
Voilà, c'est ça, donc on peut quand même relier des films complètement différents. Mais voilà, c'était un vrai choc et surtout la maîtrise de créer une bande de copains. On les voit jeunes, on les voit grandir, on les voit vieux, on les voit mourir même. Et c'est vrai que c'est un film qu'on peut revoir à plusieurs passages de sa vie en y détectant d'autres choses.
Est-ce que tu te souviens dans quelles conditions tu l'as vu pour la première fois?
Vidéoclub.
Vidéoclub, très
ouais,
bien.
Vidéoclub.
Eric?
Même question.
Même question,
ouais. Même question. Moi, je crois que ce qui m'a marqué le plus dans ce film, c'est que j'ai découvert le voyage dans le temps qu'on peut faire avec le cinéma. En fait, il y a une espèce de défi incroyable avec l'homme, c'est qu'on voudrait essayer, évidemment, de remonter dans le temps ou de capturer le temps. Et là, avec ces trois périodes qui sont formidablement décrites, et surtout avec cette vision de l'enfance, c'est des gamins qui se rencontrent dans les bas quartiers, on va dire les quartiers un peu pauvres de New York, et comment ils vont évoluer, comment leur amitié va évoluer. Et c'est quelque chose qui me fascine quand le temps peut se balader comme ça. C'est peut-être ce que fait le cinéma de plus fascinant. C'est quand on arrive à rentrer dans la machine et se dire mais en fait ça a dû être exactement comme ça.
D'ailleurs je l'ai revu hier et en fait en le revoyant je me suis dit forcément il a inspiré pas mal de réalisateurs dont j'imagine Barry Levinson pour Sleepers, parce que quand on regarde Sleepers il y a quand même des similitudes avec Il était une fois en Amérique dans la façon de filmer cette bande de potes après plus tard comment ils ont évolué etc. dans les rues de New York et tout, donc on sent quand même l'influence du film. Guillaume, toi la première fois où t'as vu ce film, t'as quoi comme souvenir?
Moi je l'ai vu, je l'ai pas vu ado, je l'ai vu un peu plus tard et effectivement l'impression de regarder tu sais ce genre de truc où dès le début tu dis ok je suis en train de regarder un chef d'œuvre. Il y a quelque chose de, déjà il y a tout ce qui précède de, tu sais qu'il faut le voir, tu sais qu'il faut l'avoir vu etc. Et quand tu te retrouves devant effectivement tu te dis ouais, enfin je l'ai revu là il y a deux jours et je me suis dit tu sais, une maestria de la mise en scène tout le temps, quoi. Constamment, en fait, c'est genre... tu sais, même là, il y a une scène qui m'a marqué, je sais pas pourquoi, c'est ce de... Tu sais, au début, où il y a Mo qui est dans son... En fait, il va rappeler Mo, puisqu'il est revenu, c'est tout début. Et ça se balade, il y a juste la musique, ça se balade, il n'y a pas de son, personne ne parle. On le voit derrière sa vitrine, il l'appelle, il est choqué. Et la caméra, elle redescend, elle est sur la cabine téléphonique, et toujours pas de dialogue, etc. Et t'as un truc de... Je sais pas, c'est de la maestria tout le temps, quoi. J'ai adoré, c'est trop beau.
Aurélien.
Pareil, quand je l'ai vu, je pense que c'était assez tard. Et moi, j'en ai un souvenir morcelé, parce qu'à l'époque, il passait à la télé. Et vu qu'il est... Enfin, il dure 4 heures, je crois. Ou 3h30, je sais plus. Bref,
3h49.
J'avais toujours l'impression d'en voir... tu sais, j'ai l'impression de jamais voir le même film. J'avais l'impression de voir plusieurs fois des bouts que je mettais bout à bout, mais j'ai mis longtemps à le voir une fois en entier, en fait. Donc, il y avait des moments qui me plaisaient de fou, genre quand ils étaient jeunes et tout, d'autres que je raccrochais pas, et d'autres après que je pense, quand j'étais petit, je mélangeais avec les autres films de gangsters de Niro, en fait.
Okay.
Parce qu'en fait, vu que c'était les mêmes acteurs, tu vois, c'était pas les mêmes périodes, en fait, quand j'avais 12 ans, des fois, je mélangeais tout, et je disais, ouais, Noodles, c'est dans les Goodfellas, je sais plus, enfin, c'était pas très précis, c'était des petits morceaux comme ça, quoi.
Ouais, la première fois que je l'ai vu, c'était à la Filmothèque du Quartier Latin, je devais avoir 21-22 ans, et la première chose qui m'avait marqué, c'était l'entracte. Première fois de ma vie que je voyais un film avec une entracte, c'est-à-dire que les gens sortaient du cinéma, allaient fumer et revenaient voir le film, je trouvais ça assez fou. Et donc là, je l'ai revu pour l'occasion et ce qui m'a vraiment marqué, c'est le souci du détail, en fait. Là, tu parlais de Maestra tout à l'heure. Tout est pensé, en fait, quand on regarde le film. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a un passage où il retourne dans la gare et il y a juste des valises qui passent comme ça. Et au niveau des détails qu'on peut voir dans le film, des costumes, des décors, etc., on sent que tout a été pensé au millimètre, quoi. C'est assez incroyable, quoi. Même à la fin du film, quand il sort de chez Max, il sort, il y a une grande allée comme ça, et puis il y a plein de torches qui sont allumées sur le sol. C'est un truc qu'il aurait pu éviter, tu vois, pour le coup, mais il s'est dit non, on va mettre des torches parce que c'est une soirée vraiment grandiloquente, donc on va tout faire pour qu'on y croit, tu vois.
Et le truc qu'on se disait juste avant, c'est que en le revoyant, je me souvenais pas que c'était un film aussi dur.
Oui, bien sûr, mais justement, ça va y revenir.
Vraiment hard, quoi.
Justement, est-ce qu'il y a une scène qui vous a marqué dans le film? Si là, vous deviez ressortir une scène de Il était une fois en Amérique, Eric.
Bah, c'est celle où il regarde dans l'œil celle qui danse, qui est pour moi une espèce de référence. D'abord parce que ça se passe dans l'enfance, ensuite c'est des souvenirs donc d'enfance assez marquants qui passent par l'image et puis la façon dont c'est cadré et qui fait écho à la fois où il privatise un restaurant pour elle. C'est cette histoire d'amour qui traverse le film, sa naissance et son évolution. Mais pour moi, c'est la première image qui me vient telle quelle comme ça. C'est comment, à l'adolescence, dans l'émotion, on peut tomber amoureux. Et en plus, elle danse, donc il y a une espèce de grâce. Et c'est la façon dont c'est filmé.
D'ailleurs, en revoyant le film, j'étais assez étonné de voir Jennifer Connelly. J'avais complètement oublié qu'elle jouait dans le film.
Bien sûr.
Pour ceux qui ne connaissent pas Jennifer Connelly, qu'on a pu voir récemment dans Top Gun Maverick. Et elle joue la jeune fille dans Il était une fois en Amérique. Et je crois que c'est grâce à ce rôle que Dario Argento l'a remarqué. Il l'a fait jouer après dans Phenomena en 1985. Olivier, une scène qui t'a marqué comme ça.
Bah, la scène... faut dire, quand vous disiez que le film était dur, il y a quand même, je ne veux pas spoiler, mais il y a quand même un môme qui est abattu.
Ouais. Ouais.
Et cette scène-là, avec l'adéquation, comment Sergio Leone joue avec le ralenti, avec la musique, avec le décor, il se prend une balle dans le dos et c'est comment le début, en fait, la bande va encore se ressouder autour de la mort de leur petit pote, de leur petit copain. Et cette scène, je m'en rappelle presque à la seconde près où on le voit arriver au loin comme ça, en ralenti. On sent que la tension monte avec cette musique d'Ennio Morricone qui est magique, magistrale. Et c'est une scène effectivement qui est très dure où on voit un môme mourir dans les bras de son pote, quoi.
Avec la fameuse phrase « j'ai dérapé » qui lui sort. Guillaume, toi, est-ce qu'il y a une scène qui t'a marqué plus que l'autre?
Une scène des plans surtout, plutôt. Mais par exemple, juste après ça, il y a ce plan où tous les gosses lui disent au revoir quand ils rentrent dans la prison.
Ouais.
Incroyable.
Avec le gros mur derrière lui, ils sont tous réunis au centre, et lui derrière ses barreaux, etc. Il y a des plans comme ça où tu te dis, mais c'est magnifique, quoi.
Toi, Aurélien?
La fameuse scène, en effet, avec la mort du petit, parce qu'en fait, ça commence justement avec le fameux plan qui devient l'affiche, là où il passe devant le
Manhattan Bridge.
Manhattan Bridge derrière. Donc là, en 3 minutes, t'as tout le film presque, je trouve. Et sinon, en y repensant, ce que je savais quand on allait sortir cette scène-là, moi, il y a le moment où il y a, quand ils sont plus vieux, le braquage dans la bijouterie, là, qui tourne un peu mal, et après, le moment où De Niro, il se rend compte que, en fait, ses potes, c'est devenu des tarés et qu'ils lui ont pas dit, en fait, qu'ils se mettent à buter tout le monde là, et qu'ils disent vous m'avez pas dit les gars, c'est quand même bizarre. Il fait, on avait peur que après la prison tu changes. Et ce moment où en fait tu vois qu'ils se regardent plus pareil, en fait. Cette scène, j'ai trouvé forte.
Moi, je pense que ma scène préférée dans Il était une fois en Amérique, c'est la scène où l'enfant va acheter un gâteau pour être dépucelé dans le film, et on lui demande d'attendre devant la porte, Et finalement, il observe ce gâteau, parce que ce n'est qu'un enfant. Et il observe ce gâteau, et en fait, il commence à prendre un petit peu de chantilly, puis un peu plus, et il finit par manger tout le gâteau. Et pour moi, c'est une scène qui vraiment définit le film, parce que le film, ça parle de plein de choses, mais je trouve que ça parle aussi de la perte d'humanité. Et quand on voit ces enfants, ils en ont encore plein au départ, et ils en ont plus à la fin. Et d'ailleurs, tu parlais de cette scène dans la bijouterie, il y a un viol dans la bijouterie. Et là, moi aussi, un des trucs qui m'avait marqué, c'est que quand je l'ai vu au cinéma, j'avais pas été aussi choqué par la scène de viol dans la voiture.
Avec toutes les scènes de sexe, c'est soit tarifé, soit imposé, quoi. C'est un peu sombre.
Et c'est un peu ce qui avait été reproché au film à l'époque. Mais c'est un film très dur.
Mais par contre, tu vois, on parlait tout à l'heure du rancard, et quand on le revient, je me disais vraiment
la classe.
Quand il dit, tu choisis la table que tu veux, quoi. Au resto, t'es là, oh ouais, quoi.
En fait, c'est
crack.
Commencer aussi bien le rendez-vous et le finir.
C'est clair. C'est catastrophique la fois.
Il y a un acteur qui m'a marqué dans le film, donc vu que c'est un de vos films préférés, Eric et Olivier. C'est le fameux Fatmo qu'on peut voir au début. Il a un sourire vraiment très reconnaissable. Et quand je l'ai vu, je me suis dit, mais attends, mais il a dû faire d'autres films, ce gars, parce qu'il me dit quelque chose. Non, en fait, il est vraiment bon dans ce film, donc je pense qu'il nous a marqué pour ça. Figurez-vous que ce gars, je suis allé faire des recherches sur cet acteur, Larry Rapp, il s'appelle. Il a joué que dans 3 films, entre 82 et 85. Un film qui s'appelle Mr. Wonderful, un autre qui s'appelle Alf Nelson, et ce film, les 3 avec Joe Pesci. J'ai pas réussi à trouver d'autres infos, mais je pense qu'en fait ça devait être un pote de Joe Pesci, puis il a joué dans ces films-là, puis il a plus jamais rien fait. Alors qu'il joue hyper bien dans le film Le Fatmo de Il était une fois en Amérique. C'est la petite info que je vous donne.
Elle croustille. Elle croustille déjà.
Vous en faites ce que vous voulez. Hein.
Je pense qu'il a eu des héritiers à travers d'autres acteurs, et je pense à Jonah Hill, moi. Je pense qu'il y a des mecs comme ça, des Fatmo, il y en a eu d'autres comme ça, qui sont des personnages qui existent dans la société américaine.
Mais en tout cas, il est vraiment bon dans le film. J'adore Fatmo. Vraiment cool. Alors Aurélien, 10 ans après la sortie de Il était une fois en Amérique, Robert De Niro s'est essayé pour la première fois à la réalisation avec un film, Il était une fois le Bronx, s'inspirant grandement de ses collaborations passées avec Sergio Leone et Martin Scorsese. Et des actrices et acteurs qui ont tenté de faire le même métier que nos invités du jour, Eric et Olivier, il y en a eu quelques-uns, chacun et chacune avec des fortunes diverses.
Ouais, c'est vrai, on y pense souvent à ces acteurs qui deviennent des réalisateurs, et les premiers noms qui nous viennent souvent, c'est Clint Eastwood, on va dire quand même, le mec maintenant sait plus si c'est un acteur ou un réalisateur, tellement ça a été important pour lui de passer à la réalisation, et on a vu, on a tous, à mon avis, un film préféré de Clint Eastwood en tant que réalisateur.
Le vôtre ?
Moi j'en ai un, ouais.
Million Dollar Baby. Ouais,
Million Dollar Baby.
Ouais. Ah ouais, ouais. Vraiment. J'avoue. En fait, il a fait tellement de choses différentes que je pense qu'on peut avoir plein de films différents de Clint Eastwood, c'est assez fort. Mais après, on peut citer aussi des gens qui ont eu des carrières fulgurantes, comme Kevin Costner, qui fait un premier film, Danse avec les loups, qui a été un carton total.
Et qui a l'Oscar, je crois.
Oui, je crois.
Ouais.
Et de réalisation, je ne sais plus, mais en tout cas, le film a eu plusieurs Oscars. Et à côté, par contre, il a fait Postman, je ne sais pas si vous vous rappelez de ce film.
Si, c'était bien sûr. Dans le Grand Nord, dans le froid.
Un petit peu plus compliqué, mais un bon film quand même.
Ça n'a pas été considéré comme un navet, celui-là, non?
Ouais, je crois que c'était surtout un flop au box-office total, juste après Waterworld, ou dans les mêmes moments. Donc c'est le moment où on s'est dit, bon, Kevin, arrête d'abuser, mec. Fais Bodyguard et arrête de nous saouler.
Les gens disaient ça, vraiment ou...
Je pense, ouais.
Mais en anglais.
Non, ça, je traduis, là, parce que, voilà. Ensuite, je sais que ça va plaire, JB, mais on peut citer Mel Gibson, qui a aussi des films important dans sa filmographie en tant que réalisateur.
Plus de polémiques, par contre.
Plus polémiques, bien sûr, mais qui aussi ont fonctionné. Il y en a un sur deux, on va dire, qui est compliqué, et l'autre qui marche bien en général. Donc, mais c'est vrai, beaucoup
plus polémique. On va retenir Braveheart et Apocalypto.
Voilà. Et encore Apocalypto, polémique aussi. Mais...
Ah ouais, polémique Apocalypto ?
Ouais, je crois, sur sa vision de plein de choses sur... bref. on peut citer aussi Robert Redford dans les acteurs qui ont fait de nombreux films. Pareil, pas forcément que des chefs-d'œuvre ou des classiques, mais on peut citer Et au milieu coule une rivière, qui est quand même un bon film. Moi, je peux citer aussi La légende de Bagger Vance, c'est un film que j'adore sur le golf, mais je pense qu'il n'y a que moi qui l'adore. Mais il a fait quand même pas mal de très bons films, Robert Redford. Et on peut citer son collègue dans de nombreux films, Paul Newman, qui a fait aussi des films hyper ambitieux, dans les années 70 notamment, qui était...
Il n'avait pas fait un film avec un titre très compliqué, avec des fleurs et tout.
Ouais, de l'étude, des rayons gamma, oui, voilà, sur machin, ça, j'arrive jamais à le dire, mais oui, c'est un très bon film. On peut citer aussi Warren Beatty, qui a fait beaucoup de cinéma engagé dans les années 70-80. On peut citer par exemple Reds, comme un de ses films de référence, mais il en a fait énormément, et ça a bien fonctionné. Et on peut citer aussi George Clooney, il n'y a pas très longtemps, qui a fait aussi plusieurs films.
Monuments Men.
Ouais, Monuments Men. Il y avait aussi Goodbye and Thank You. C'est le truc avec...
Je ne l'ai pas vu.
Bon bref, je suis en train de me planter complètement. mais ça, c'était ceux qui ont donc réussi, qu'on connaît pour être autant des acteurs que des réalisateurs maintenant.
T'as raté aussi, t'as oublié aussi Greta Gerwig, si je peux me permettre.
Tout à fait.
Qui là cartonne avec Barbie et qui avait fait Lady Bird.
C'est vrai. C'est vrai que je ne l'ai pas cité, mais c'est vrai.
Ouais, mais après, t'es peu woke, moi je suis obligé de mettre des femmes aussi.
Non, bien sûr, mais j'ai des femmes après, t'inquiète pas. maintenant, les réalisateurs, les acteurs, je ne sais pas si vous savez qu'ils étaient réalisateurs et quels films ils ont fait. Par exemple, Jack Nicholson. Saviez-vous qu'il a réalisé des films?
Non. Pas ceux qu'on aurait vus, en tout cas.
Eh bien, il en a réalisé trois. Dont un en 1990 qui s'appelle Two Jacks. Je ne sais pas si vous l'avez vu.
Ah, ça me dit un truc.
Qui est une suite officielle de Chinatown. Avec le personnage que Jack Nicholson joue, qui n'a pas du tout fonctionné comme Chinatown et qui ne restera pas dans les années. Mais aussi, dans les années 70, il a fait trois films, dont un qui s'appelle en français Vas-y, fonce. Que j'ai regardé pour un peu me documenter. J'ai rien compris, on va pas se mentir. Jacques, je pense qu'il était un peu sous drogue. C'était en 1971. Il a fait une sorte de western un peu comédie aussi qui s'appelait Going South dans les années 70. Et après, depuis, il n'a jamais réalisé. C'est assez bizarre. Tom Hanks, savez-vous qu'il a réalisé plusieurs films?
Ah, si, il a fait un film de baseball, Tom Hanks.
Ouais, c'est ça, ouais. J'allais dire un truc sur le baseball.
Non, il a réalisé un film sur.
Ah non, sur un groupe de. De musique. Il a joué dans un film de baseball.
Non, That Thing You Do.
Exactement, ça, c'est That Thing You Do. Il y a un très bon batteur dans ce film, d'ailleurs, That Thing You Do. Je sais pas si tu te rappelles. Non. Je sais que tu joues la batterie.
Merci.
Ouais, c'est un film où Tom Hanks joue un impresario et il découvre un. En fait, Tom Hanks est passionné de musique des années 50-60. Donc là, c'est vraiment l'histoire d'un groupe style les Beatles ou les Beach Boys. Et un peu leur montée au top et la descente et un peu les
très bons films
au sein du groupe. En vrai, le film est cool. Il en a refait un deuxième avec Julia Roberts dans les années 2010 qui s'appelle Larry Crown. Moins bien. Ensuite, est-ce que vous saviez que Danny DeVito a réalisé des films?
Ah, il a pas fait Mathilda, non?
Il a fait Mathilda, ouais, tout à fait. C'est sûrement son plus connu. Mais il a aussi réalisé Un Diplex pour Trois avec Drew Barrymore et Ben Stiller. Vous saviez ça?
Jamais vu. Non.
J'ai découvert ça. Et aussi un super film qui s'appelle Balance Maman hors du train.
Ah si, c'est avec la mère Fratelli qui joue dans les Goonies.
Exactement. Ouais. Et avec Billy Crystal. Voilà, une petite carrière quand même de réalisateur, ce qu'il a réalisé.
Vous avez vu tous ces films? Non, vous n'avez pas vu tous ces films.
Pas trop. Pas trop, okay. Non, sûrement, peut-être.
Peut-être que le titre m'a un peu rebuté. Balance le train, c'est quoi?
Balance le maman hors du train.
Balance le train hors de maman.
Ouais, mais
le titre, ça donne pas tout de suite envie de voir le film.
Ouais, mais ça, c'est un peu l'époque où les Français, ils traduisaient les films de façon comme Arrête ou ma mère va tirer ou ce genre de choses.
Ça s'appelle vraiment Stromama.
Ah oui, d'accord. Okay,
on a eu une période en France avec Prends ton passe-montagne, on va à la plage ou des films comme
oui,
ça.
Oui, des titres interminables.
Voilà, des trucs.
Et il a aussi réalisé l'histoire de Hoffa. Je ne sais pas si vous avez vu ce film avec Jack Nicholson d'ailleurs. Et c'est réalisé par Danny DeVito. Ce que j'ai appris avec cette chronique. Dernier réalisateur dans le même genre qui a réalisé plusieurs films, mais je ne le savais pas, Tim Robbins, le fameux des Évadés.
Évadés, ouais.
Il a réalisé trois films dans les années 90.
Je ne sais pas.
Les avez-vous vus? Non. Il a réalisé un film avec Sean Penn et Susan Sarandon qui s'appelait La Dernière Marche. Avec
un condamné à mort.
Et je sais que ce film, il a beaucoup tourné dans les années 90, on l'a beaucoup vu. En fait, c'est Tim Robbins qui l'a réalisé.
Ah, c'est fou.
Et il a réalisé deux autres films dans les années 90. Et après, ça a disparu, dont un sur une comédie musicale à Broadway qui était hyper engagée, avec un casting de folie. Il y a vraiment énormément de gens dedans. Mais ça n'a pas marché, depuis il a arrêté. Ça, c'était pour les acteurs qui ont fait plusieurs films et qui ont quand même une bonne carrière. Là, maintenant, j'ai que des.
Flop.
Non, des acteurs qui ont réalisé qu'un seul film et je ne le sais pas
voilà,
du
tout. Parce que j'en ai un pour toi.
Ah bah vas-y. On va voir si c'est bon alors.
Vas-y.
Savez-vous que Ryan Gosling a réalisé un film?
Ah ouais, tu vois.
Ouais, avec Reda Kateb.
Mais non. Et oui, tout à fait vrai.
Mais non. Taxi, bien sûr.
C'est vrai.
Mais c'est quoi le film?
Qui est joué avec
le film s'appelle Lost River.
Tourné entièrement à Détroit, c'est ça?
Ouais. Lost River, ouais.
Ah, je sais pas, et c'est bien.
C'est pas mal, c'est très atmosphérique.
C'est assez dark.
Ouais, assez dark, mais c'est vachement bien. Puis nous, on a vu notre pote Reda dedans et c'est.
Putain, c'est fou.
Ça fait toujours plaisir, ouais.
C'est fou. Seul film, 2014. Ouais, c'est donc une sorte de conte un peu dans un monde un peu.
J'imagine
à part,
qu'il a
passé
ses sons parce qu'il fait de la musique. J'imagine qu'il y a tous ses sons dans
oui,
le film.
Oui, aussi, ouais, ouais, son, ouais.
Ah ouais. Et quand même.
Et tout le monde est habillé en rose en plus dans le film.
Ah ouais,
ouais.
Ah, ok.
Il y a gros casting quand même avec Christina Hendricks, Eva Mendes et Ben Mendelsohn aussi. Donc,
okay, cool.
Et il avait eu des bonnes critiques à l'époque. Je crois qu'il avait été sélectionné à Cannes. Autre acteur, je ne savais pas du tout qu'il avait réalisé un film, Antonio Banderas.
Ah ouais, tiens.
En 1999, okay. Il a fait un film qui s'appelle Crazy in Alabama, qui a été traduit en français La tête dans le carton à chapeau. Bon, voilà. Et j'ai lu quelques critiques. Apparemment, c'est un film où énormément, c'est un mélange de énormément de genres un peu spéciaux. Le seul film qu'il réalisera avec sa femme de l'époque, Mélanie Griffith. Et bah, tout le monde avait été assez impressionné par ce premier essai qui okay. sera le dernier. Autre acteur que je ne savais pas qui avait réalisé un film, Dustin Hoffman.
Ah oui.
C'était alors, il n'y a pas très longtemps.
C'est pas sur une chorale avec des si. Personnes Young âgées.
Exactement.
Young at Heart.
Bien joué. Ça s'appelle Quartet.
Quartet.
Ah non. Et c'est donc dans une maison de retraite, des grands musiciens qui retrouvent une ancienne diva qui vient s'installer dans la maison de retraite et toutes leurs histoires anciennes de musiciens réapparaissent. Ça n'a pas l'air fantastique.
J'ai un tout petit scoop pour vous.
Ah, voilà. Nous, on adore ça ici, attention.
C'est un film qu'on nous a proposé.
Attention, c'est un vrai, c'est un vrai scoop. Ouais.
Ouais. Oh. C'est pas que je le connais, parce que sinon, je ne vois pas comment je connais.
Incroyable.
C'est un des films qui, après Intouchable, a été d'un film américain qu'on nous a proposé. Et on a dit non et on ne savait pas qui allait le faire. Et un jour, on a découvert que c'était lui. C'est d'ailleurs la seule raison pour laquelle je me rappelle de ce pitch.
Et alors, quelles sont les raisons pour lesquelles vous avez refusé ce film
On était trop jeunes.
Non, c'était non, pas. C'était un moment où, si tu veux, après le succès du film à l'étranger, d'Intouchable, on a reçu pas mal de projets américains, mais qui n'avaient pas vraiment rapport avec notre ADN ou ce qu'on avait envie de raconter. Donc on les lisait surtout quand c'était des, quand il y avait marqué Metropolitan ou Warner sur le truc, ça nous excitait. Mais souvent, il y avait la déception était à la hauteur de l'excitation qu'il y avait eu en voyant le logo.
Celui-là, c'était pour dire la vérité, c'était des Anglais.
Des Anglais.
Et c'était quelque chose qu'on a vraiment voilà qu'on a lu et qui était pas naze quoi à la lecture donc mais comme dit très justement Eric nous on est des Français des banlieusards
donc bon quand français.
On voilà donc on avait c'était pas en adéquation mais Dustin on l'a vu non c'est pas vrai.
Non, c'est incroyable de dire que vous avez refusé le film et Dustin Hoffman l'a accepté.
C'est
plutôt cool.
Ça fait partie des petites anecdotes qui fait.
Et est-ce qu'aujourd'hui il y a encore des propositions qui viennent justement des États-Unis?
Alors, il y en a eu beaucoup à un moment. Je crois qu'ils ont vu qu'on n'était pas très réactif, mais très franchement, c'est valorisant et en même temps pas trop parce que ce qu'ils envoient, c'est souvent des dérivés des films qu'on a fait qu'ils ont vus.
D'accord.
C'est comme s'ils nous avaient mis dans un secteur et qu'ils n'étaient pas très inventifs. Donc, on a reçu beaucoup de trucs avec des gens, soit qui avaient eu un accident, soit c'était très ressemblant. Donc, à un moment, on a été excités et on a même été faire un tour là-bas en rencontrant des acteurs. C'était assez marrant. On avait rencontré Steve Carell. On avait pris un café avec
trop
lui.
Trop bien.
Oh, et c'est des trucs sympas, mais ça ne donne pas lieu vraiment... Non, il n'y a pas eu de trucs constructifs.
Après, il faut savoir que, pour vous dire comment font, pour mon procès, les studios américains, ils font des shortlists de metteurs en scène et ils envoient le scénario à tout le monde en même temps.
Ouais.
Ils attendent les retours. C'est aussi un peu comme ça. Donc, on était très fiers et très honorés d'être dans ces shortlists. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, on ne se voyait pas aller là-bas et c'est pas du tout notre... ils ne fabriquent pas du tout les films comme nous, on les fabrique. Ce n'est pas notre ADN et je pense qu'on aurait été malheureux. Mais par contre, ce qui est vrai, ce qui nous fait rêver, c'est les acteurs. C'est les acteurs. Quand Eric dit, voilà, on s'est retrouvés devant Steve Carell, bah, c'est un bonheur, c'est des expériences. On se fabrique des magnifiques souvenirs comme ça et peut-être qu'un jour...
Mais alors justement, vous me lancez une perche, qu'est-ce que vous pensez de la version US avec Bryan Cranston alors d'Intouchable?
Ah, c'est difficile pour nous de parler de ça parce que c'était un truc bizarre. C'était Weinstein qui avait les droits du film, donc comme il a été en prison, on pensait que c'était fini. Puis un jour, on nous a dit non, finalement, ça repart et ça se tourne. Bryan Cranston, il a fait Breaking Bad et c'est quelqu'un qu'on appréciait, Kevin Hart aussi. Donc on s'attendait à quelque chose et après, et aussi, je parle pas de Nicole Kidman, quand même, c'est sympa d'avoir des... Mais
oui, c'est pas mal.
Forcément, c'est bizarre à dire, mais c'est pas du tout condescendant, mais forcément, on est un peu déçus toujours, parce que... D'abord, c'est une histoire d'amitié, et à un moment, je pense que ça s'est transformé dans The Upside, en une histoire d'amour aussi avec Nicole Kidman. Alors, moi, je dirais que t'es à la fois dans un mélange où t'es honoré qu'on reprenne tes idées, et en même temps déçu, parce que c'est pas comme ça que tu l'aurais fait. Bon, pour une vraie anecdote, des fois, quand on écrivait, avec Olivier, on se disait, tiens, nous, on va faire ça. Les Américains, eux, ils iraient plus loin, ils feraient ça. Et donc, on prenait l'étendard de ce que feraient les Américains. Bah, on a vu ce qu'auraient fait les Américains. Ils ont été plus loin. Un peu trop, c'est une expression chez les Américains, un peu trop cheesy pour nous. Cheesy,
ouais.
C'est...
Ouais, je vois très bien.
Je sais pas comment on pourrait le traduire, mais il y a du fromage, en tout cas.
Un peu plus
cheap et mainstream, c'est encore plus...
peut-être un peu plus, ouais. Un peu plus dans une émotion un peu parfois... dans une limite où, ouais. Voilà, où nous, on retient, en mettant par exemple après une scène d'émotion, une grosse scène de comédie où il va le raser. Il n'y a pas cet équilibre-là. Quand ça y va avec des violons. Et je trouve que c'est dommage parce que l'histoire, elle est un peu plus sèche que ça.
Mais d'ailleurs, je trouve que c'est un sujet intéressant parce que très souvent, des films qui ont cartonné en France comme Intouchables, comme Les Visiteurs, ont été repris aux États-Unis et c'est toujours quelque chose de moins bien. Comme s'ils avaient du mal à adapter les gros succès français. Je pense aussi par exemple à un film moindre, mais comme Mon Père ce Héros qui a été adapté aux États-Unis. Pourquoi ça marche pas à votre avis? Pourquoi les gros succès français?
Il y a True Lies.
Oui, mais quand on voit True Lies.
C'est un français moyen qui est devenu un bon
film. Oui, mais voilà, c'est ça.
Vous avez Coda aussi, la famille Bélier qui a quand même chopé l'Oscar.
Oui, c'est vrai. Exact. Il y a un contre-exemple. Mais généralement.
Après Coda, j'ai une explication. Il a été produit par les producteurs français. C'est Rousselet qui a produit le film.
Donc ça joue.
Mais Intouchables, il a marché, le film aux États-Unis. Le website, il a très bien marché. Et parfois, en fait, c'est des codes qu'on ne connaît pas. Et comme on a eu la chance de voyager pas mal avec ce film, on se rend compte qu'on n'avait pas les codes. D'abord, les Américains lisent peu de sous-titres, donc ils n'auraient pas à regarder Intouchables dans sa version originale. On n'a pas été très loin, sauf dans les grandes villes. Mais c'est des codes, et les codes ne sont pas exactement les mêmes. Donc c'est parfois dur à trouver les équivalences.
C'est vrai. Et là, la chose qui est assez frustrante, c'est qu'on a fait une tournée là-bas et le film recevait un accueil génial. Et les gens nous disaient, mais pourquoi, comment on fait pour voir d'autres films français? Il y a un tel protectionnisme, il laisse tellement pas rentrer de films autres que des films américains que les gens n'ont pas eu cette éducation au sous-titre qu'on a nous ou dans d'autres pays d'Europe.
Ou même au doublage.
Voilà, ou même au doublage.
Donc c'est compliqué. Mais là, il n'y a pas. C'est, en fait, finalement, quand un film est bien, bah, on le reprend et on remet un peu la sauce américaine. Et
mais nous, on a décidé de faire un remake du remake.
Ah ouais?
C'est très bon ça.
Mais c'est marrant parce que c'est un sujet qu'aborde Tarantino dans son dernier livre, là, Cinema Speculation. Parce que lui, il allait voir des films justement étrangers. Il disait qu'il avait vu des films formidables, mais que c'était pas ouvert au grand public américain, quoi. D'ailleurs, on parlait de Steve Carell tout à l'heure. Il y a aussi eu un remake du Dîner de cons avec Steve Carell.
Ah oui, c'est vrai. Vu, qui est pas...
C'est un schmuck.
Il t'en reste 2-3, Aurélien.
Oui, bien sûr. Bah, on peut en sortir un ou deux, en effet. Philippe Seymour Hoffman.
Oui.
Il a fait un film.
Oui. Avant de mourir, il n'y a pas longtemps avant de mourir
Je crois, ouais. C'était en 2010-2011, donc je crois qu'il est parti en 2014. Ouais. Un film, d'ailleurs, qui ressemble un petit peu à sa vie. L'histoire d'amour de Jack et Connie, deux losers sympathiques et drogués. Bon.
Voilà. Ok, merci.
Ça me fait plaisir. Sinon, Frank Sinatra a réalisé un film, ça je ne le savais pas, L'île des Braves, qui a plutôt bien fonctionné, un film de guerre, en 1965. Et un tout dernier, parce que celui-là, le pitch est exceptionnel, Mark Ruffalo. Saviez-vous qu'il a fait un film qui s'appelait Sympathy for Delicious en 2010?
Ah non.
Ah mais attends.
Je vous sors le pitch parce qu'il est complètement incroyable. Dean, alias Delicious D, était un DJ prometteur avant de devenir paraplégique suite à un accident de moto. Il est désormais réduit à vivre dans sa voiture, dans Skid Row, le quartier des clochards de Los Angeles. Après avoir participé à une cérémonie religieuse en espérant se soigner, il découvre qu'il a le pouvoir surnaturel de guérir les gens par le magnétisme. Mais ironie du sort, il ne peut pas s'en servir sur lui-même. Dean devient alors le héros de la mission locale dirigée par le père Joe, qui est notre Mark Ruffalo dans le film. Et malgré les avertissements, Dean, de plus en plus aigri, décide d'utiliser son pouvoir pour en tirer gloire et profit en rejoignant un groupe de rock dont il va devenir le phénomène de foire. Grand film en devenir, je pense.
C'est pas avec James Franco ou un acteur comme ça un peu connu?
Non, c'est pas avec un acteur connu, je me rappelle plus exactement de son nom, mais Mark Ruffalo joue dedans en tout cas.
Très bien. Mais alors, si je peux me permettre, il en manque
un. J'en ai bien, oui, bien sûr.
Et il est sur mon t-shirt.
Ah oui, Vandamme.
Ah oui.
C'est lui qui l'a réalisé.
Jean-Claude Vandamme, il a réalisé The Quest.
Ah, The Quest.
Avec Roger Moore.
Ah oui.
Et Roger Moore, il a dit, horrible le tournage, je veux pas faire la promo, c'est de la merde ton truc.
Terrible.
Et voilà.
Terrible. Alors, si je vous dis un plan qui a grandement marqué Il était une fois en Amérique, vous me dites...
Le pont,
le Manhattan Bridge, bien sûr. Un des plans les plus beaux et donc les plus cultes de l'histoire du cinéma qui a par la suite occasionné un afflux considérable de touristes encore aujourd'hui, chaque jour. D'ailleurs, Guillaume, on y allait pour la première fois.
On y allait et après, quand je dis pro photo, t'étais là, on pourrait les effacer sur Photoshop?
Oui, non.
C'est relou.
En fait, c'était assez décevant. Vous êtes déjà allé sur ce spot?
On a tous les deux une photo là-bas.
Ah bah voilà, il y a plein de gens. Du coup, et puis même la vision n'est pas la même parce que forcément c'est pas filmé. Oui. Enfin, tu vois.
Puis il y a une épicerie à droite.
C'est décevant.
Le pont, il est là.
Est-ce qu'on peut dire que c'est décevant? Non.
Ouais, c'est décevant, mais après quand on se dit bah voilà, il devait avoir la caméra là, il devait avoir, on se met à rêver un peu.
Faut y aller tôt le matin, quoi.
Oui, voilà.
D'ailleurs, pour ceux qui verront ou reverront notre tout premier film,
on a tourné là-bas.
Je préfère qu'on reste amis. On a fait ce plan.
Ah ouais,
avec Jean-Paul Roux.
En hommage, vraiment.
Tout à fait.
En toute humilité.
En toute humilité.
C'est le premier film. On a été chercher ce décor.
Voilà. Alors, si je vous parle de ça, c'est pour vous proposer un petit jeu.
Ah oui.
Figurez-vous que ce spot est l'un des 10 endroits liés au ciné les plus visités au monde. Ah. À vous de trouver les 9 autres.
Ah, j'en ai
à un. Votre avis, quels sont les endroits les plus visités?
J'en ai Eric. Le café des Deux Moulins à Montmartre pour Amélie, non?
Écoute, alors, il est dedans, mais il n'est pas dans les 9 les plus visités.
Ah.
Mais il est dans un des endroits les plus visités. En tout cas, les Américains, quand ils viennent à Paris, ils vont là-bas. Nous, on s'en fout un peu, mais les Américains,
c'est
eux,
mondial,
ils y vont.
Tu veux dire, c'est pas français.
C'est mondial, c'est mondial.
Ah, c'est mondial.
Ah, c'est mondial.
Un endroit, endroits connus de tournage que tout le monde va voir.
Ah bah,
iconique.
Un monument de Valais, peut-être, de John Ford.
Il n'y est pas. Parce que ce n'est pas un lieu en particulier.
Ah,
je pensais que
d'accord.
Vous trouveriez plus rapidement.
Attends, on va
du coup,
trouver.
Ça...
Ah, j'en ai un.
Non, attends.
J'en ai peut-être
attends.
Un.
Ah.
Quand Harry rencontre Sally, Katz.
Et allez, il est dedans. Bravo. Ah, bravo, Eric. Oui, bah, ça... Tiens, d'ailleurs, je vais faire des points. Je décide de faire des points.
Oui.
Ça fait
ah, bah, comme
zéro.
Par hasard.
Non, mais voilà, ça fait un zéro. Ça fait un zéro pour Eric. Allez, voilà. Exactement. C'est parti. Un zéro pour Eric. Il y a le Delicatessen, excellent. C'est le Katz Deli.
Il y a une.
Lower East Side.
Exactement.
Il y a une affiche qui dit elle était là.
Elle était là. Et nous, on a mangé à cette table.
Exactement. Alors qu'on venait de manger. Mais on s'est dit, bah, quand même.
On a repris des frites.
Ah oui, il y a peut-être le pont de Manhattan de Woody Allen, d'ailleurs.
Il n'y est pas.
Il n'y est pas.
Est-ce que c'est, est-ce que, en demandant un indice, est-ce qu'il y en a pas mal à New York? Il y en a au moins un ou deux autres.
Il y en a pas mal aux États-Unis déjà.
Aux États-Unis.
À New York.
Ah, j'en ai un autre.
Ah,
Rocky.
Ah oui.
Rocky 2-0.
Ah,
bah oui, 2-0, il est là, il est présent.
Bien sûr.
Les marches de Philadelphie.
Eh oui, les marches de Philadelphie.
Un afflux de touristes là-bas, c'est un des 10 endroits les plus visités liés aussi.
Mais d'ailleurs, pour la petite anecdote,
vous avez un plan dans
tous les deux. Non, non, on a été tous les deux. Il faut savoir que la statue n'est plus en haut, donc elle est en bas des marches. Et il y a un gardien qui était là, et donc on a été discuter avec lui. On a bien discuté avec les gens, et on lui dit, alors, il dit, ouais, ils se succèdent tous les jours, et il n'y en a aucun qui rentre au musée d'art contemporain qui est juste derrière, où il y a des trucs magnifiques, bien mieux que cette statue-là. Donc voilà, ouais, c'est vrai que c'est.
Et j'imagine, alors moi, j'y suis jamais allé, mais j'imagine que quand on va là-bas, il y a plein de gens qui courent et qui font le truc de Rocky.
Ouais, mais bien sûr.
Incroyable.
Bien sûr. D'ailleurs, c'est le générique d'un des Creed, je crois, ou d'un des Rocky, où tu vois tous les gens monter, filmés en vidéo. Ouais, bien sûr, on est obligé, on l'a fait comme des abrutis, on est moqué.
Washington, là où il y a le.
Oh, il est qui s'en fout, il est très chaud. Attends. Sur le jeu.
Très chaud sur le jeu.
Washington.
Ah,
là où il y a les
ah, je l'ai, j'ai un.
Ah.
Tom Hanks.
Forrest Gump,
Le banc.
C'est non, parce que figure-toi que le banc,
ils
ont essayé de le voler, donc ils l'ont mis dans un musée.
Ah,
mais donc c'est pas l'endroit plus. Mais tu disais, Eric, justement, Washington, j'ai pas compris.
Potomac, là, le truc, comme ça.
Ben, c'est vrai qu'il y a déjà, dans Forrest Gump, il y a le grand truc.
Ah oui, mais il y a dans plein de films.
Statue
de la Liberté.
L'Observatory à Los Angeles.
Ah bah oui, James Dean, la fleur de vivre.
C'est pas dedans, hélas.
Oh le.
Bah non, mais je vous l'accorde, mais c'est pas
le
dedans.
Le Griffith, bon. Il est pas dedans.
Il y a pas non. Un truc de Harry Potter, une station, je sais pas quoi.
Il y a Harry Potter.
Ah, y a Harry Potter. Ah.
Ça fait un point pour Guillaume.
Ah bon, bah il y a Harry Potter, mais bon.
C'est, quoi. Bah, c'est le viaduc. C'est le fameux viaduc. En fait, il y a un spot.
À Millau.
D'accord, bah j'ai pas dit tout ça.
À Millau.
J'ai pas du tout dit ça.
Non, oui, t'as pas dit ça. Je te donne le point quand même. Non, c'est un viaduc. On peut voir le train passer. S'appelle le. Alors je l'ai ici. S'appelle le train. Le Jacobite Stream Train.
On est
voilà.
Des experts d'Harry Potter.
Ah, experts d'Harry Potter. Ça fait donc un point.
Mais attends, parce qu'on est d'accord que c'est pas. Tu vas pas me dire, ouais, des trucs qui sont dans Universal Studios et tout. C'est des trucs qui sont.
Non,
pas.
Des trucs.
Ouais, c'est pas Mars dans Gravity.
Bien sûr.
C'est pas naturel.
C'est ça, voilà.
Ouais, c'est pas genre.
Alors,
voilà.
Je vais commencer à balancer des indices. Il y a Star Wars, allez, voilà. Ça fait un point.
Ah, le désert. Le
village de Tatooine est un des endroits les plus visités au monde. Voilà, Tatooine.
C'est à Tozer, je
crois. Il en reste quelques-uns. Alors, je vais commencer à balancer des indices.
On rappelle le score, peut-être.
Oui. On a 2, Eric. 1-1 et 0. Pour l'idée, ouais, hélas. Il faut se refaire. À New York, il y a quelque chose. C'est l'indice que je peux vous donner.
Bah, la Trump Tower.
Non,
juste en haut de l'Empire.
Central
truc,
Park.
Une nuit blanche à Seattle.
Ouais.
Non, il n'y a pas ça.
Ah, bon,
par
merde.
Contre.
Central Park de Dustin Hoffman qui court dans son.
Non, c'est pas ça. C'est vraiment lié à un film en particulier.
Attends, on va trouver.
C'est à New York.
Ouais.
Et chaque jour,
maman, j'ai
il y a un afflux touriste. Film des années 80. Film culte, s'il en est.
Ouais.
Film culte.
C'est pas un Spielberg.
Ah ouais. C'est pas un Spielberg,
c'est
mais.
C'est pas un maman, j'ai raté l'avion au Plaza.
Il y a dedans un acteur qui était une tête d'affiche du Saturday Night Live dans les années 80.
Mais Eddie Murphy.
Non, c'est pas ça.
Non, attends, on va trouver.
Vous avez trouvé.
Robin Williams.
C'est pas ça. C'est à New York. C'est pas loin du World Trade Center.
Un fauteuil pour deux, Dan Aykroyd.
Wall Street.
Non, Dan Aykroyd, un fauteuil pour deux.
Ah, Dan Aykroyd, t'es pas loin. Attention,
Ghostbusters.
Ghostbusters, voilà.
C'est Ghostbusters.
Olivier, dégoûté.
Non, c'est pas décisive.
La Statue de la Liberté, Ghostbusters.
Non, non, c'est la caserne de pompiers.
Ah, j'ai pas dit la caserne. J'ai dit le film.
Bon, bah, zéro. Non, ça marche pas.
Elle existe vraiment.
Elle existe vraiment.
On y allait, on peut acheter des t-shirts Ghostbusters là-bas.
On est allé partout.
Non, en fait, on y allait et il y a un pompier qui est sorti. Vous voulez rentrer à l'intérieur? Il nous a fait rentrer à l'intérieur.
Ils vendent, c'est la première caserne de pompiers qui a été appelée pour le World Trade Center.
Exactement. C'est le premier camion à être allé sur les lieux.
Exactement.
Voilà. La caserne de Ghostbusters. Un film d'aventure.
Indiana Jones.
Indiana Jones, mais je te laisse me trouver l'endroit.
La fin de Indiana Jones.
Attends.
Ah non, c'est aux États-Unis.
Venise.
C'est le 3. Dans le 3.
Ah, donc c'est le désert. Là,
c'est le désert à la fin.
J'ai pas vu. Le château de.
Non, mais les.
Mais c'est le désert et en fait, c'est Petra.
Ah, c'est Petra.
C'est la façade
Petra,
à Petra.
Bien sûr, en Jordanie.
En Jordanie, exactement. C'est un des endroits les plus visités aussi.
Mais il est plus visité à cause d'Indiana Jones.
Bah oui.
Bah maintenant, il y a plein de gens qui vont à cause d'Indiana Jones, justement. C'est assez incroyable. Vous avez oublié un film qui est multi-oscarisé.
Titanic.
Multi-oscarisé dans les années 2000. Par un réalisateur qui s'appelle, dont les initiales sont P et J.
Paul Thomas Anderson, non.
Alan P. Jakula.
Il n'y a pas de J.
Et qui s'appelle Peter.
Peter Jackson.
Ah, Peter
Jackson. Peter Jackson.
Oui, Nouvelle-Zélande.
C'est le village des Hobbits. Il a été créé pour le film, il a été laissé tel quel.
Ah.
Et aujourd'hui, les gens vont visiter ce village avec une maison d'Hobbits. Bah, voilà. Ça te ferait plaisir, t'es allé là?
Ah oui, plaisir, on y va ensemble.
Ouais, pourquoi pas, j'aimerais.
Mais sinon, Eric a raison, tout à l'heure, quand on va aller dans Montmartre, vous voyez plein de touristes qui prennent en photo le café d'Amélie.
C'est vrai.
Ah ouais.
C'est vrai. C'est pour être plus proche de nous, quoi.
Et aujourd'hui, il y en a aussi plein qui font ça pour Emily in Paris.
Emily.
Ah oui, bon, c'est pour ça que
j'abandonne.
Il y a un autre truc aussi, c'est à Trocadéro, il y a une queue de 2 heures pour prendre un chocolat chez Carrette ou je sais pas quoi.
Ah oui. Pourquoi il y a quoi là-bas?
Ils font le chocolat en forme de cœur ou un truc comme ça.
Ah ouais.
Ça vient d'une série aussi, je crois.
Bon, ça on le fera pas ça.
Vous savez pas les jeunes.
Ça on le fera pas. Tout à l'heure, t'as dit un film d'aventure. En plus, Indiana Jones. T'as dit
Goonies.
Les Goonies. Et la maison à Astoria, c'est un des 10 endroits les plus visités.
Ah bon?
Ah, génial.
Elle est au nord de la Californie, là-haut, là.
C'est, à Astoria, Oregon.
Or, quoi, maintenant?
Et les propriétaires en ont marre. Ils ont mis des panneaux, genre, arrêtez de venir et tout, ils sont saoulés. Quoi. Même si je pense que quand t'achètes cette maison, ça fait partie du lot. T'es obligé de savoir que, il y a plein de fans qui vont venir.
Il va falloir faire un musée.
Et enfin, il en reste un. Et pour ce dernier, c'est un kit ou double, celui qu'il trouve en premier. Et le grand champion.
Sachant qu'il y a toujours 2-0. Ouais. Ah non, 2-1, pardon.
E.T. C'est parti. E.T. Il n'y a rien dans E.T.
Non, il n'y a rien, hélas.
On dit bien le lieu, pas le film.
Il faut dire le lieu.
Le lieu, allez.
Je vous donne les indices. C'est un film qui a cartonné. Et là, on a des jeunes qui sont là, qui nous écoutent à côté, parce qu'on a un nouveau studio. Il y a des jeunes qui sont là, et je suis sûr qu'ils ont adoré ce film. C'est un film qui est sorti il n'y a pas très longtemps.
Toujours un film américain.
Un film américain et qui est devenu un film iconique pour la nouvelle génération. C'est un film qui se passe dans les rues de New York, dans les années 70.
Le Joker.
Oh, Joker, c'est
là. Les marches.
C'est les marches, bien sûr. Non, mais Eric, je pense que c'est le grand gagnant. Il était chaud aujourd'hui.
Je vous en prie.
Non, c'est les fameuses marches où on peut voir le Joker descendre. C'est un des nouveaux spots les plus visités. C'est-à-dire que tout le monde fait des photos là-bas pour Insta, pour TikTok, etc.
C'est une petite danse.
Voilà, et tout le monde reproduit.
Ce qui est dingue, c'est qu'à travers les films, les États-Unis, comme c'est un pays jeune, ils ont créé des monuments historiques à partir des films. C'est-à-dire que nous, on a des vrais trucs. Enfin, la Sacré-Cœur, ils ont des trucs qui sont créés par l'entertainment, par le cinéma.
C'est assez incroyable. Et il y a aussi les escaliers de l'Exorciste aussi qui sont souvent visités. Il y en avait aussi quelques. Il y a la cascade dans Jurassic Park, à Hawaï, qui est très visitée. Alcatraz, qui beaucoup de gens y vont, non pas pour la prison, mais aussi pour l'évader d'Alcatraz depuis qu'ils ont vu le film avec Eastwood. Il y a le Timberline Lodge, qui est l'hôtel de Shining. Beaucoup de gens y vont.
Bah, nous, on a Rochefort. Hein.
Rochefort.
Pour les demoiselles de Rochefort.
Oui.
T'es un peu déçu.
T'es sûr qu'il a un t-shirt Jean-Claude Van Damme. Il a pas un t-shirt Jacques Demy.
T-shirt Jacques Demy.
En parlant de Rochefort, t'as pas fait un carton unanime.
Il y a aussi d'autres escaliers, les escaliers des Incorruptibles.
Ah, j'allais te dire, dans la gare.
La gare.
Celle-là,
la grande centrale.
Exactement. Elle est trop pointue.
Et enfin, un dernier lieu très visité.
Pont-Aven.
Et ça, c'est la petite surprise. C'est la librairie dans Coup de Fou dans Notting Hill.
Ah, ça m'étonne pas.
Ah oui.
Très, très visité.
Alors, elle est encore, ils ont carrément gardé tout le décor.
Alors, Eric et Olivier, j'aimerais qu'on aborde votre filmographie, si vous le souhaitez, chronologiquement. Et c'est le moment pour moi de vous faire une confidence.
Je n'ai pas vu aucun de vos films.
Non, mais de vous raconter comment j'ai découvert votre travail. il faut que je vous le dise. C'est au début des années 2000. Alors, au début des années 2000...
ça croustille ou pas?
Ouais, ça croustille.
Ça croustille,
ouais. Non, mais tu verras. J'ai jamais raconté en plus. Au début des années 2000, faut savoir que moi, je suis né en 1983. Et au début des années 2000, j'utilisais beaucoup un site de téléchargement qui s'appelait Imule. Ça vous parle, Imule, ouais, avec, oui, le petit logo, c'était un âne.
Le petit logo, l'âne.
Et très souvent, j'utilisais Imule pour télécharger des sons ou principalement des films de cul. Voilà, je vous le dis. Oui. Je vous le dis en transparence.
Mais un, c'est pas incompatible, un son et
bien
film
sûr,
de cul.
Oui, bien sûr, évidemment. Et un jour, un soir, ma mère est partie à Leroy Merlin, je suis tout seul à la maison.
Une belle soirée.
Ta maman est donc bricoleuse.
La maman est bricoleuse. Donc le champ est libre, je me dis pourquoi pas télécharger un petit film de cul sur Imule. Je télécharge le film de cul, je double-clique pour le lancer. Qu'est-ce qui se passe à l'écran? Court-métrage, Ces jours heureux, Laurent Deutsch. C'est ça qui est arrivé, non pas. Parfois ça arrivait, je sais pas si t'en souviens.
Oui, bien sûr.
Parfois tu téléchargeais des trucs et c'était pas du tout ce que t'avais commandé.
Du coup, t'étais vachement déçu.
Non, mais,
du coup,
c'est du génial coup, d'avoir fait sa filmographie en pensant avoir du cul. C'est génial.
Ou alors tu t'es dit, quand est-ce que Laurent Deutsch va se foutre à poil?
Ouais. Non, mais ça, ouais, j'attendais.
À quel moment je me branle?
Non, mais, juste, non, mais voilà, c'est ça. Et en fait, non, mais du coup, je regarde ça et j'étais un peu déçu. Et ben, figurez-vous.
Qu'il a eu d'érection. C'est ça qui est quand même super chelou.
C'est que là, maman est rentrée avec deux plaintes dans la main. J'ai une perceuse.
Mais non, mais figurez-vous que j'ai lancé le film et que j'ai trouvé ça très cool. J'ai été pris par le film, j'avais même plus envie de me branler. Et ça, c'est le plus beau compliment que je peux vous faire, les gars.
Bravo.
Si à l'époque, on avait pu avoir une critique dans Branlette Magazine
ou bien Pignol TV.
Avec ce film, vous pourrez résister à la branlette.
C'est bien.
Non, mais vraiment,
c'est génial.
On va mettre ça, tu sais, sur les bus.
Enlève l'envie de se branler. Voilà.
À la place de la comédie de l'été qui fait chier tout le monde, vous empêchera de vous branler.
Telephone the Click vous empêchera de vous branler.
Non, mais franchement, j'avais oublié que je devais faire ça. Et j'ai été pris par le court métrage.
T'avais oublié que tu... Ah ouais.
Non, mais j'avais oublié.
Moi, ce que j'aime, c'est le devait.
Ouais.
Que je devais.
C'est une des meilleures anecdotes qu'on a eues sur un retour d'un film qu'on a vu.
Non, mais c'est vrai.
C'est hyper touchant.
Non, mais c'est très touchant, hein, parce que tu t'ouvres là.
Non, mais vraiment, je m'ouvre et j'ai trouvé ça cool. Je me suis regardé mon petit film, j'ai remonté mon froc comme ça, tu vois. Je me suis dit, c'est fini, je passe un bon moment, je regarde Ces jours heureux. Et j'ai adoré, et c'est un film après que j'ai gardé dans mon disque dur. Et j'ai dû regarder peut-être 8-9 fois, tu vois. Et on s'est croisé une fois avec Olivier, c'était à une avant-première. À une avant-première, et une de mes premières questions, c'était de lui parler de Laurent Deutsch, parce qu'après il y a eu Nos jours heureux, et c'était plus Laurent Deutsch. Et j'avais posé justement une question sur le court-métrage, parce que c'est un court-métrage que j'ai regardé genre vraiment 10 fois, quand j'avais genre 19-20 ans. Parce que je le trouvais trop cool, en fait, je le trouvais trop bien. Et moi, je vous ai découvert grâce à ce film et de cette façon-là, voilà. Donc, c'était pour un peu introduire cette chronique.
Ceux qui nous écoutent, allez voir, il est sur Internet.
Téléchargez-le sur Emule.
Il est sur YouPorn.
Oui. C'est vrai que c'est le bébé de Nos jours heureux.
Bah oui, c'est vrai. Oui, parce que beaucoup de gens connaissent Nos jours heureux, mais pas forcément Ces jours heureux. D'ailleurs, où est-ce qu'on peut le trouver aujourd'hui si on le cherche?
Il est gratuit sur tape Google et tu l'as.
On a deux courts-métrages, Les Petits Souliers et Ces jours heureux. Ils sont les deux sur Internet.
Un accès gratuit.
Il y a un truc qui m'avait marqué dans Ces jours heureux. C'est vraiment l'instant où je me suis dit, OK, j'adore ce court-métrage. C'est quand le père de Laurent Deutsch arrive et lui dit, je t'ai préparé un sandwich. Il y a ça dans le court-métrage.
Oui, ouais.
Je me souviens, j'avais trouvé ça trop bien parce que grâce à cette petite phrase, on sait tout du personnage et on comprend tout son malaise, en fait, et je trouvais ça trop bien.
Jean Lescaut.
Alors, donc, maintenant qu'on vient de parler de ce court-métrage, je vais vous proposer un petit jeu. Vous avez réalisé 8 longs-métrages, je vais les citer chronologiquement, et l'idée, c'est de me sortir une petite histoire liée à ce film que les gens ignorent. La première qui vous passe par la tête, est-ce que vous êtes OK?
Parce que
vous avez l'air de raffoler des anecdotes quand même.
Ouais.
On est des très.
C'est-à-dire qu'on est à l'affût.
Bien sûr.
Et on en a vécu 2-3.
Oui, j'imagine bien.
Déjà,
Dustin Hoffman, ça me régalait déjà tout à l'heure.
La question, faut trouver la bonne sur chaque film. Ouais.
On commence donc avec votre premier, Je préfère qu'on reste amis, première comédie en 2005 avec Gérard Depardieu, Jean-Paul Rouve et Annie Girardot.
Ah, moi, j'ai une anecdote.
Ah, pas mal. J'aime quand ça commence cash.
Tout de suite, il y a un jour, on s'est levé, on est arrivé sur le plateau. Et on n'avait aucune nouvelle de Gérard Depardieu.
C'est relou, ça.
Et donc, on a appelé tous les gens compétents pour savoir où il pouvait. Ça faisait 3 ou 4 semaines. Je me rappelle m'être dit, dans ma tête, c'était extraordinaire de faire un film, mais ça s'arrête là. Donc, on n'a plus de nouvelles. Soit il est mort, soit il a fait un accident, soit on ne sait pas, etc. Et donc, on a...
Là, il y avait un PAT, c'est-à-dire que vous
étiez... Il y avait un PAT, exactement, comme ça. C'est-à-dire qu'en gros, les gens sont convoqués à 1 heure pour le maquillage, et ensuite, on attend. Et là, tu as un assistant qui vient et qui en est sans nouvelles de Gérard. C'est-à-dire sans nouvelles, sans nouvelles. C'est-à-dire, on a appelé tout le monde, l'agent, le machin, on ne sait pas où il est.
Est-ce que vous aviez cette crainte avant quand même? Parce qu'on connaît Depardieu,
on
sait qu'il
peut
être...
Oui, on avait cette crainte, on savait qu'à un moment ou un autre, il peut y avoir des imprévus. Et en fait, on a tourné toute la journée d'autres choses en attendant d'avoir des nouvelles. Et c'est le soir, avant la fin, on nous a dit, en fait, il a pris un coup de sang, il est en Italie. Et il est parti dans une clinique pour maigrir. Et donc...
Ok, mais d'accord, mais il y a un film à tourner, du coup.
En fait, il est revenu, on a changé de plan de travail, il est revenu deux jours après. Et il était vraiment désolé. Il a dit, il fallait vraiment que je m'en aille, etc. Et quand on est parti, tous les deux, on avait des voitures. Et en fait, au moment de démarrer la voiture, je me suis dit, putain, la voiture, elle a un problème. Et c'est vrai, je me rappelle qu'il m'avait demandé mes clés pour aller garer la voiture, l'assistant de Gérard. Et lui aussi. Et on est allé. Et en fait, on a ouvert le coffre. Il y avait 5 caisses de vin avec marqué « Pardon ».
Ah. Oh. Puis, c'est une bonne anecdote.
Ah ouais. Ce qu'il faut dire aussi quand même, parce que si Gérard Depardieu n'avait pas accepté de faire notre premier film, on ne sait pas ce qui se serait passé derrière. Mais pour se faire pardonner aussi de ce qu'il nous a fait, parce que ça a été quand même 3 jours rocambolesques, il nous a invités dans son restaurant. Il avait un restaurant à Opéra. Donc on est arrivés tous les deux et on a dit voilà, on a une table. Gérard nous a, après le tournage, nous a réservé une table. Et il nous a dit « Suivez-moi ». Et puis on est arrivé, il y avait Jean-Paul Roux avec nous dans la cuisine. Et Gérard nous avait dressé une table dans la cuisine. Et il nous a fait lui à manger. Et on est resté jusqu'à 5h du matin à écouter des anecdotes de cinéma français, de ces tournages. C'est un moment dont on se rappelle.
Est-ce que vous vous souvenez du plat qu'il avait préparé?
Ouais, il avait fait des patates, du canard et du poisson. Et ensuite, il nous avait installé une ligne de verre pour nous apprendre à comment goûter le vin. Donc, on est retourné le matin. Je vous laisse deviner dans quel état au tournage. Mais bon, c'est des moments.
Des moments qui restent. Ouais.
Magnifique. Deuxième film en 2006, Nos jours heureux. Justement, on en parlait avant. Jean-Paul Rouve encore, Marie Louberry et Omar Sy. Alors là, du coup, c'est un retour aux sources parce que vous avez commencé avec Ces jours heureux. Mmh. Alors déjà, pourquoi le changement de titre déjà?
À cause de Jean-Paul qui a commencé à faire des interviews. Ouais. Et en fait, c'est Olivier qui avait été, c'est là, dans la mérite plutôt, un truc qui s'appelait « Séjours heureux ». On entendait « Séjours ».
Parce qu'il y a le jeu de mots.
Mais je crois que les gens ne le comprenaient pas. Et en fait, Jean-Paul a fait des interviews, il a dit « Ça ne marche pas, il faut changer ». Et on a dit « On prend le C, on le rend en O ». Parce qu'en fait, c'était l'endroit où nous, on s'est rencontrés. Et c'est resté comme ça.
Ok. Et il y a une autre anecdote sur...
Alors l'anecdote, il y en a plein des anecdotes. La plus balèze de toutes, c'est que... Au moment où on a écrit le film, on a été en colo tous les deux, pas ensemble, parce que directeur, t'es pas ensemble par essence, t'es tout seul. Et donc, quand on a écrit le film, il y avait une géographie, et puis le producteur, il a dit, bon, pour vous, ça pourrait se passer où? Faut qu'on trouve un lieu. Et je commence à dire, il y a un endroit qui s'appelle Château de la Couronne à Marton, j'ai fait une colo. Et Olivier, il me regarde, il me dit, mais moi aussi. Et on s'est rendu qu'inconsciemment, on avait ce château en tête tous les deux. Et comme le producteur est un mec assez audacieux, il a dit, venez, on prend un billet, on y va maintenant. Donc on a pris le TGV, on est allé à Angoulême, on a fait 20 bornes, on est arrivé au château de la Couronne.
Trop bien.
Et en fait, c'était des Anglais qui venaient de le racheter, comme beaucoup de châteaux dans cette région-là. Ils avaient fait des chambres d'hôtes. Il a sorti le chéquier, il a dit « on arrête les travaux, on tourne dans 3 mois
».
Donc on a tourné dans un endroit où on a vraiment fait des colos.
Putain,
donc
super.
C'était assez bizarre de se retrouver 10 ans après là-dedans. Maintenant, des anecdotes sur Nos jours heureux, on en a 50 000, mais celle-là, c'est la première qui vient.
Mais déjà, alors moi, c'est vraiment... Je dis ça d'un point de vue très extérieur, mais quand je vois votre carrière et quand je pense à votre carrière, j'ai l'impression que tout est un peu comme dans un rêve, tout est linéaire, quoi. Comme si tout était arrivé, genre.
Non, ce qu'il faut quand même dire, la chose qui peut faire penser ça, c'est en fait on a démarré très jeune. C'est-à-dire que très tôt on s'est rencontrés, très tôt entre guillemets, on s'est jamais dit on va faire du cinéma, mais on s'est dit on va essayer des choses. Mais par contre, avant le premier long métrage dont on parlait avec Gérard Depardieu, on en a qui se sont pas montés. Et donc je pense que l'obstination qui fait aussi partie du talent, elle a joué. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on est dans une frénésie d'écriture. On a écrit notre premier film en même temps que Nos jours heureux. On a tout écrit en même temps en se disant la porte, avec les courts métrages, la porte s'ouvre un peu, elle s'entrebâille. Donc on a été repéré par des producteurs, mais ça n'a pas marché. Donc pour donner un grand coup, il faut y aller, quoi. Donc on a écrit et notre grande chance a été de rencontrer Nicolas Duval, notre producteur, qui est toujours le même, hein, qui n'a pas bougé au cours de ces 8 films. Et avec lui, qui n'avait pas fait de long métrage, et ben on a grandi ensemble et les portes se sont ouvertes. Et c'est vrai que après, le fait d'être deux, le fait d'avancer film après film, d'avoir des choses à dire, d'avoir vécu des choses et d'avoir envie de les raconter, c'est vrai que voilà, on peut penser qu'il y a une certaine fluidité, et tant mieux, hein. Mais c'est vrai qu'il y a 2-3 bumps, il y a 2-3 dodans quand même.
Mais si je dis ça aussi, c'est parce que dans un milieu comme le cinéma, où chacun a sa propre vision, ça semble très compliqué parfois de bosser à plusieurs, et vous, on a l'impression que ça se passe méga bien en fait. Déjà, je pense que vous êtes amis depuis longtemps, donc ça joue. Mais à quel point ça peut être difficile de travailler à deux, ou au contraire, très facile?
Mais non, mais ça permet d'absorber tout un tas de choses. Ça, bon, voilà, par exemple, là, on a un film qui sort dans pas très longtemps. Bah, on sent la pression qui monte, on sent les sollicitations qui augmentent. Donc voilà, à deux, ça permet de gérer tout ça. Et ensuite, pour repartir, on va réécrire des films, enfin un film. Donc pareil, c'est une mécanique qui s'est mise en marche. C'est vraiment, il n'y a que des bons côtés. En fait, il n'y a que des bons côtés. Tu partages plein de trucs avec ton pote. Après la sortie en France, on va présenter le film à l'étranger. Et ben, je l'ai fait une fois tout seul où on nous a séparés. Et ben, j'en ai pas des bons souvenirs. Ouais. Donc voilà, je franchement, c'est nous, on n'y voit que des trucs positifs. Quand il y a des coups durs, c'est bien de les encaisser à deux. Et puis quand il y a des bonnes choses, quand il y a des succès, c'est bien aussi. Ça permet de le partager.
Est-ce que vous vous souvenez de l'endroit et du premier truc que vous êtes dit quand vous êtes devenus amis, quand vous vous êtes rencontrés tous les deux?
Ouais. Si, c'est un peu connu, hein, mais c'est-à-dire qu'on était dans une colo où il y avait plusieurs bandes et on n'était pas dans la même bande. Il y avait la bande d'Olivier et avec ses copains et moi j'en avais d'autres. Et donc,
dans ma bande, il téléchargeait beaucoup Imul. Voilà, on peut passer à autre chose.
Voilà. Et non, ben voilà, tu peux raconter mieux que moi. Parce que
non, en fait. Non, si tu veux, la première rencontre, c'est vrai qu'on était dans un mouvement de jeunesse, il était animateur, puis directeur, on se connaissait sans se connaître. Puis un jour, j'ai appris qu'il faisait un stage sur un plateau de cinéma. Je savais qu'il aimait le cinéma, je savais qu'il faisait des animations autour du cinéma. D'ailleurs, je pense qu'on aurait fait ce que vous faites là, s'il y avait eu les podcasts et tout ça à notre époque. Et en fait, j'ai pris un TGV, j'ai débarqué dans la nuit dans sa colo qui était dans les Alpes pour lui dire « Putain, prends-moi en stage !» Parce que lui était stagiaire.
Ce à quoi j'ai répondu « Je n'ai pas déjà un rôle sur ce film suffisamment important pour moi-même avoir besoin d'un stagiaire puisque j'amène le café. Donc à moins de mettre l'eau chaude, je ne vois pas comment je pourrais te proposer le truc. Mais par contre, je vais tout te raconter, on va discuter. On a parlé une bonne partie de la nuit. Et je lui ai dit, écoute, c'est une expérience, j'ai décroché ça comme ça. Et évidemment, je lui ai raconté. Et puis après, on a commencé à parler beaucoup de Cinoche. Et en fait, on s'est associé sur tout le reste. Lui, il était très musical. Il faisait beaucoup de. Il était DJ dans des boîtes de nuit, de machin, etc. Et donc, ça, on a commencé à faire tout ensemble.
Et un jour, pour vraiment raconter ce qui s'est passé, si on se rappelle d'un moment, c'est qu'on s'est retrouvé dans un quick.
Premier étage, fast food, voilà. On avait pris un café pour nous, parce qu'on avait pris pas très riche.
Et Eric a ouvert un cahier et on a écrit, voilà, comment faire du cinéma.
Voilà,
qu'est-ce qu'on doit faire?
J'adore l'histoire comme ça qui commence dans un quick.
Ouais, c'était dans un quick, c'était un quick. Et puis bon, on a mis un, alors qu'est-ce qu'il faut
faire?
Un, il
faut aller voir tous les One Man Show de Paris. Deux, il faut aller voir tous les films qui sortent. Trois, il faut aller voir tous les classiques qu'on n'a pas vus. Et on a fait un truc un peu scolaire.
Et je rappelle un autre truc, c'est qu'Eric avait gardé donc, la Bible de son stage. C'est-à-dire que la Bible, c'est le document. Quand un film est fini, tous les techniciens, tout le monde récupère la Bible comme un souvenir.
T'as les portables, il y a le contact de tout le monde.
Il avait la Bible de tous les techniciens. Et donc on les a tous appelés. Donc lui, il avait laissé des bons souvenirs à des gens. Notamment, je me rappelle de Pierre Beff, qui était un ingé son incroyable. Et bien, voilà, on a été le voir, on dit, voilà, comment on fait? Et le résultat de tout ça, on nous a tous dit, les gars, faites.
Un court-métrage.
Court-métrage.
En fait, tout le monde nous a dit ça, mais on était au café, il y avait des gens très sympas, ils étaient techniciens, je t'ai rencontré là-dedans. Ouais. Est-ce que tu as 10 minutes à nous donner pour un café? On a juste des questions. Et on prenait des cafés qui duraient évidemment pas du tout 10 minutes, mais en fait, il y a des gens sympas, il y en a qui étaient moins sympas, qui disaient j'ai pas le temps, mais ceux qui étaient sympas, on allait, et on passait une heure avec un mec qui avait fait 20 films en tant que technicien, et on posait des questions sur les règles.
Il a même eu l'audace, je me rappelle très bien, on avait écrit donc un premier court-métrage, qui s'est pas fait, hein, mais un premier court-métrage. Il a carrément appelé la réalisatrice qui avait fait le film dont il a été stagiaire, c'est Diane Curis. Il lui a enlevé, elle nous a appelé. Elle nous a appelé pour nous dire, pour nous encourager. Donc ça a démarré un peu comme ça.
En fait, c'est pour ça que je fais un programme comme TAB, c'est que j'adore les histoires comme ça, en fait.
Ouais,
en fait, pas de parler de l'après, mais de l'avant. Comment ça se passe, par exemple, l'histoire du quick? Est-ce que vous avez gardé le cahier dans lequel vous avez
Non, mais on a gardé beaucoup de choses. Moi, j'ai gardé l'agenda, la Bible. On a pas mal de choses. On a notamment un truc qui est très, très marrant. C'est qu'évidemment, on était très scolaire. On allait faire des photocopies dans le bureau de mon papa. On n'avait pas de bureau. Je squattais chez lui, qui lui-même était en colocation à deux rues d'ici. Et je me rappelle qu'on avait écrit une lettre type en disant, voilà, on a écrit ce court-métrage en pensant à vous, monsieur Blanc. Et on l'a envoyé à, je sais pas, à 30 acteurs. Et je les ai retrouvés il n'y a pas longtemps parce que pendant le confinement, comme on se faisait chier, on rangeait. Et donc j'ai retrouvé des lettres avec monsieur, nom d'acteur. Et
j'ai une autre anecdote, on a trouvé un truc, nous, pour être sûr, mais c'est plus tard dans les longs métrages, pour être sûr que les gens le lisaient. Page 80, donc vers la fin du scénario, je sais pas, par exemple, Guillaume, c'est Guillaume, j'allais dire son nom de famille, si je ne connais pas ton nom de famille, mais disons Guillaume Rosier. Si je savais que le mec, le producteur, s'appelait Guillaume Rosier, à la page 80, il y a un mec qui dit, et là, Guillaume Rosier arrive, vêtu comme ça, etc.
Ah, et donc, là, il
et donc s'il n'avait pas vu qu'on avait mis son nom, on savait qu'il ne l'avait pas lu.
C'est pas mal, ça.
Ah, et donc, bien. Si le mec ne nous en parlait pas, c'était un petit piège, mais le mec disait, ouais, c'est vachement bien, bon, écoute, c'est pas le truc et tout. Je dis, ouais, il ne l'a pas lu. C'est sûr que la page 80,
très bonne technique.
Voilà. Non, c'est-à-dire qu'on a tout, eu. On a eu des producteurs complètement ouf. On a vraiment fait le parcours classique jusqu'à faire un premier court-métrage tous les deux et qui s'est mal passé, qui n'a pas marché.
Dans les lettres de refus, on a fait dans notre premier bureau, on les a affichées. Ouais. Il y en avait 82 lettres de refus et c'était la même formule. C'était malgré les qualités évidentes. Et c'est marrant parce que j'ai revu Intouchable hier soir et qui passait à la télé. Et en fait, on a repris une formule. Quand lui, il vient chercher un papier, il dit un papier, pourquoi il dit, pour comme quoi vous n'avez pas les acédiques, vous mettez, malgré les qualités évidentes, ça vient de là.
Putain, pas mal. On enchaîne avec Tellement Proche, sorti en 2009 avec Vincent Elbaz et Isabelle Carré.
Ouais. Y a tellement...
Ah oui, moi j'ai une anecdote quand même qui est croustillante, c'est que derrière la vitre, là, il y a nos enfants. Voilà, je vois Ben qui est là, qui illumine de ses yeux un des premiers plans du film. Ouais, c'est des. En fait, nos films, ils racontent ce qu'on vit. Donc, à chaque film est gorgé de ce qu'on vivait à l'époque. Et là, c'est sûr que c'était la paternité, les enfants. Et c'est vrai qu'on les a mis.
Ben, il a 3 mois dans le film. Ouais. Il est dans les bras d'Isabelle Carré, Raphaël et Sam. Ils sont
dans la crèche.
Voilà, c'est marrant. On a tout mis on a mis nos gosses là-dedans. Tellement Proche, c'est le film le plus personnel. On s'est foutu de la gueule de tous les gens de notre famille. Alors, il y a une anecdote. Quand tu te fous de la gueule des gens, ils ne savent pas, ils ne s'en rendent pas compte. Par contre, des fois, quand il y a un mec qui est beau gosse ou qui séduit, ils sont sûrs qu'on parle d'eux. Par exemple, dans Nos Jours Heureux, il y a plein de gens. Il y a un mec à la guitare qui séduit tout le monde. À la fin, tout le monde a dit « Ouais, j'ai vu l'anecdote. Enfin, c'est très sympa d'avoir mis ça par rapport à moi. Je n'avais jamais pensé à toi. » Par contre, quand c'est un truc crado, les gens ne se voient pas.
Voilà. Non, ce qu'il faut dire sur Tellement Proche, c'est que c'est là où on a eu le potentiel dramatique d'Omar. C'est là où ce jour-là, on s'en rappelle très bien tous les deux, on l'a raconté assez souvent, mais on a fait une scène où il donne un coup de boule à un mec parce qu'il est complètement à fleur de peau un matin et on en a marre qu'on le prenne pour un brancardier alors qu'il est médecin dans un hôpital. Et là, on avait prévu toute la matinée pour faire cette prise et on n'en a fait qu'une. Et on se souvient très bien où on s'est regardé tous les deux, on s'est dit waouh, Omar, il a quelque chose dans le bide, il a quelque chose en dehors de sa nature comique qui est très très forte. Il a quelque chose à raconter et après Tellement Proche, on s'est mis en tête de chercher quelque chose pour lui. D'où est la naissance.
Oui, donc la graine quelque part d'Intouchable, c'est aussi ce film-là.
Ouais, bien sûr, mais de toute façon, chaque film porte en lui la graine du précédent. Mais celle-là, elle était assez prégnante.
Il y a Intouchable après, forcément, 2011. Donc là, j'imagine que vous en avez plein des anecdotes parce que le film aussi, il a connu un destin international par la suite. Donc.
Je pense que l'anecdote la plus balèze de tout, c'est quand on est au Golden Globes, tous les deux, qu'on se retrouve assis à côté de Clooney et DiCaprio et machin, et que...
Machin, c'est Spielberg.
Et que...
C'était comme une géante bar mitzvah, sauf que... À table, il n'y avait que nous qui n'étions pas connus.
Voilà, je pense qu'on était les deux seuls pas connus avec les serveurs. Voilà, c'était notre point commun.
Et encore, je crois que Bill Murray servait.
Et à un moment.
Personne n'est venu vous voir en mode on a entendu parler de votre film.
Non, pas du tout. Si, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a compris au bout de très peu de temps qu'il y avait des coupures pub. Et pendant les coupures pub, tout le monde allait se parler. Donc tous les acteurs, DiCaprio allait parler à chacun. Et tu avais un décompte 10, 9, 8, tout le monde retournait à la table. Et ça repartait en deux secondes. Et donc à la troisième coupure, on dit on va pas rester assis comme des cons à chaque fois et tout. Et on s'est dit allez, Spielberg.
Et tu sais, nature. Quoi. Nature.
Et on tape Spielberg.
Ah oui, donc
premier,
Spielberg direct. Quoi.
Donc ouais, on va direct. Spielberg et on arrive. Et comme tu es là, c'est forcément que tu as fait quelque chose. Il dit vous êtes là pourquoi ? Parce que tu peux pas être là. C'est pas un endroit où il y a des imposteurs ou des relous en tout cas. Et donc on dit nous on a fait The Untouchables machin. Il fait ah, mais je l'ai vu 3 fois.
Mais non.
Et donc on dit quoi ?
Mais on a vu 100 fois E.T.
Et donc là on s'est. Wow. Et quand il a dit 10, 9, 8, j'avais aucune envie de retourner à ma place. Et après voilà, on a sympathisé. Et
non, il y a eu des anecdotes.
Incroyable.
C'est vrai qu'il y a. Mais encore à ce jour, hein, on a tout le temps. Enfin, des messages, des gens qui nous parlent de ce film, évidemment. Il y en a une qui est assez incroyable, c'est qu'un jour, on est tous les deux à Clichy, dans notre petit bureau de prod, là, et on a un coup de fil, vous devez être demain à New York, Meryl Streep vous remet un prix. Voilà, donc c'est des choses comme ça qui nous sont arrivées.
Une dernière anecdote qui est très drôle, il y a un soir avec tous les acteurs du monde qui sont vraiment encore une fois, il y avait même Bill Clinton, et à un moment il y a DiCaprio et tous les agents veulent présenter Omar à DiCaprio. Donc il y a tous les agents qui arrivent et qui disent « May I introduce you, Omar Sy, Omar Sy ». Et donc vers 3h du matin, à un moment, pendant que DiCaprio est tranquille en train de danser, il y a un mec qui arrive « May I introduce you ». Et DiCaprio s'énerve, il a dit « I know this guy, ok ouais. Stop, I know this, Omar Sy, ok ouais. ». Il y en a eu marre que tout le monde veuille lui présenter Omar Sy. Nous, on était derrière lui.
Le DJ, c'était Jamie Foxx. Non mais véridique, non mais c'est ouais, quand ouais, on peut vous raconter, ça, on a vécu des trucs assez incroyables.
Avec des yeux évidemment très éberlués. De,
bah, j'imagine.
Voilà, début d'anecdote.
Cinquième film en 2014, Samba, avec Omar Sy encore, Charlotte Gainsbourg, Taha Rahim et Izzy Higelin. Et c'est un film particulier parce que forcément c'est le film après un
C'est le film d'après, ouais.
Donc j'imagine qu'il y a peut-être plus de pression qu'avant.
Oh, oui, il y a beaucoup, beaucoup de pression, mais.
On s'est dit qu'on allait la vivre ensemble avec Omar.
Voilà, on ressortait du film et on avait besoin d'y aller tous les trois. On était tous les trois un peu choqués par tout ce qui s'était passé. Donc, il n'y a pas d'anecdote particulière, si ce n'est la rencontre entre Taha Rahim et Omar Sy. Qui était vraiment une belle amitié et ça a formé un quatuor. On s'est beaucoup, beaucoup, beaucoup serré les coudes. Et Tahar, qui lui aussi avait vécu avec le prophète pas mal de choses, ça a eu une amitié particulière qui existe toujours d'ailleurs.
Avant-dernier, non, il en reste encore trois, mais non, avant-dernier, c'est bien ça. Trois, bon, je le coupe au montage. C'est terrible. Je me suis perdu de ma note. Sixième film, Le sens de la fête 2017, avec Jean-Pierre Bacri, Lelouch, Macaigne. Bon, j'imagine qu'il y a des anecdotes avec Bacri, parce que nous, on adore Bacri ici. Si vous pouvez nous régaler d'anecdotes avec Bacri.
Bah là, à mon avis, on en a jusqu'à 2h du matin.
Bacri, c'est une des plus grosses rencontres qu'on ait pu avoir dans notre vie, en termes humains et en termes de talent, qu'on fréquente de près. Donc, la principale, qui est la plus rapide en tout cas, c'est qu'il avait une réputation. C'est que quand tu lui envoyais un scénario, en une heure, deux heures, voire maximum 24 heures, tu avais une réponse. Et en 97% du temps, c'était non. Tout le monde, on s'échangeait dans Paris, des réalisateurs, t'as déjà Bacri, qu'est-ce que t'en penses ? Ah bah Bacri, bien sûr, mais il va te dire non en moins de 24 heures. Et il rencontre pas les gens. Il faut lui envoyer un scénario, etc. Et donc on a appelé son agent, on a dit, on a un scénario, mais par contre, on est obligé de lui donner en main propre. C'est impossible de pas le donner en main propre. Elle a insisté, il avait vu les films, il a dit, bon, ok, je leur donne une heure au café pour recevoir le scénario. On arrive, on parle. Et puis, au bout de 20 minutes, il dit « Bon, alors, donnez-moi le scénario. » Et bon, on lui dit « Il n'y a pas de scénario. Par contre, on ne veut absolument pas que vous nous disiez non dans les 24 heures. Donc, on est prêt à tout. On veut travailler avec vous. Donc, nous, on a une idée. Est-ce qu'on ne peut pas carrément se dire « Allez, on se tape dans la main, on y va, etc. » Et il a dit « Pourquoi pas ? Mais enfin, si le scénario n'est pas bon, même au bout d'un an, je vous dirai non. Ouais. » Il dit « On prend le risque. » Ça a duré un an. Pendant un an, on a écrit sans qu'il nous dise oui.
Mais donc, c'est-à-dire que ce film, principalement, vous l'avez écrit pour lui alors.
Oui, c'était vraiment. Il a cette idée-là du sens de la fête. Elle était. Ça fait longtemps qu'on l'avait en tête, mais elle a été générée par Jean-Pierre. Comme dit Eric, on lui a raconté. On ne s'est pas du tout tapé dans la main tout de suite. On a vu que ça s'allumait un petit peu. Puis après, on a écrit vraiment. Et puis, il nous a poussé. C'est ça qui est bien. C'est-à-dire que nous, on était prêts à y aller peut-être à une certaine version. Ben non, il nous a dit non, là, il me manque ça. Et donc, on a cravaché. Et c'est tant mieux. Parce que son exigence, elle est très, 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 très haute. Et puis lui, son goût, sa perfection, son implication, elle est totale. Donc, on avait besoin d'être en symbiose complète avec lui. Donc, on a vraiment travaillé le scénario. Et encore sur le tournage, sur les dialogues, sur tout. Et ça a été une magnifique rencontre. Et un tournage de rêve.
Jean-Pierre Bacri, c'est ce qui pouvait nous arriver de mieux après Intouchables et Samba. Oui. C'est-à-dire pour repartir, d'avoir une énergie et un mentor des gens dont on avait aimé les films, comme Le goût des autres, Un air de famille, Cuisine et dépendance. C'était se retrouver dans une forme de virginité pour nous, où on avait tout approuvé. Donc il est mort et on pense tout le temps à lui.
On pense tout le temps à lui. Et puis, même pour aller plus loin, même quand dans notre façon d'écrire les films, d'écrire certains dialogues, on les imagine souvent. Dans sa bouche à lui, il avait une musique particulière. Et donc, c'est vrai qu'il a son empreinte, elle est très forte.
Je l'ai revu hier soir, le film, et il est tellement fort dans cette scène où, face à Pauline Clément, d'ailleurs, qu'on avait reçue dans ce podcast, où il est tout en sarcasme face à ce couple. Il est incroyable, cet acteur.
Au début,
Il est très fort. Septième film, Hors Norme 2019, Vincent Cassel, Reda Kateb. Première fois avec Vincent Cassel et du coup avec Reda aussi, Kateb.
Bah là, c'est très, très personnel comme histoire parce qu'avec Olivier, on était très liés avec plusieurs associations, dont une principale qui s'appelle Le Silence des Justes, qui est représentée dans le film par Vincent Cassel. Et ça faisait 15-20 ans qu'on les suivait, qu'on les aidait, qu'on les filmait. On n'avait jamais osé imaginer qu'on pourrait faire un film. Et un jour, on s'est regardé à la sortie du Sens de la Fête et on s'est tous les deux dit on pense que c'est le bon moment, on est prêt. On savait qu'il y avait un sujet très fort, qu'il fallait être très prudent parce qu'il fallait faire jouer des enfants autistes, qu'il fallait parler d'un endroit où il y a beaucoup de souffrance, mais en même temps où il y a beaucoup de choses à dire. C'est peut-être le film le plus personnel et qui raconte des combats qui nous sont peut-être les plus chers. Voilà.
Et alors, est-ce que du coup, parce que vous êtes producteur des Rencontres du Papotin sur France Télé, est-ce que c'est lié à ce film ?
Oui, c'est la suite logique. C'est le fait que le film ne s'arrête pas et qu'on a tellement lié à un maillage d'associations sur l'autisme qu'on était parrain du journal écrit Le Papotin et qu'un jour... En discutant avec des gens de télé qui nous ont dit « Et à la télé, vous feriez quoi ?» On dirait « Nous, on a un journal, il faudra en faire une émission. » Et que grâce à des gens comme Tristan Carnet, comme Jérôme Lamant, comme Clément Chauvin, qui sont des gens qui nous ont aidés, on a pu faire exister ça. C'est la suite du film. Enfin, le film, il a eu plein de suites. Après, comme anecdote sympa, il y a quand même celle du fait qu'un soir, on a été le projeter à l'Élysée et que physiquement, il y avait Eric, Brigitte... Emmanuel et Olivier.
T'allais dire comment ils s'appellent.
Ouais. T'as eu machin avec Spielberg.
Et quand on était tous les quatre à regarder le film là-bas, disons que c'est un moment très étrange quand tu montres un film, d'être entouré du couple présidentiel. Ouais. Presque. D'habitude, t'attends les rires, t'attends un peu les réactions. Là, on était un peu comme ça, quoi.
Ouais, j'imagine. Mais j'aimerais vraiment encourager les gens qui nous écoutent à regarder les Rencontres du Papotin parce que moi, je me souviens, il y a quelques mois, je me suis réveillé, j'arrivais pas à dormir, je me suis réveillé vers 6h du mat. J'allume la télé et en fait je tombe sur les replays sur France Télé. J'en ai lancé un, je les ai tous regardés d'un coup. Je me suis surpris à pleurer devant. Il était comme ça 7h30, je pleurais devant ce que je regardais. Et même au-delà des pleurs, il y a aussi des moments que je trouvais vraiment éthérés, incroyables. Ce moment où il y a un des journalistes qui chante une chanson au piano.
Avec Julien Doré non, c'est pas ça.
C'est Kevin. Une ouais. Allumette.
C'est pas celle-là, mais quand il dit je vais pouvoir faire tout seul maintenant, je vais pouvoir
aller chez
Carrefour tout seul, etc. Ouais. Incroyable cette chanson. Je crois que c'est ce qui m'avait fait pleurer d'ailleurs. Et j'ai trouvé ça incroyable. Je l'avais partagé sur Insta parce que. Et je savais pas que c'était vous qui produisiez le.
Mais c'est une super aventure. Et d'ailleurs, on l'a redémarré ce samedi soir avec Jonathan Cohen.
J'ai vu le teaser, ouais.
Qui a fait la première. Et c'est une très belle émission. J'invite les gens à la regarder parce qu'elle est très émouvante aussi. C'est. Pour synthétiser ça, je pense que les invités apparaissent vraiment dans une autre facette Exactement. De leur personnalité et ils peuvent pas vraiment... Il n'y a pas de filtre. Voilà. C'est très, très spontané, c'est très humain et on est très fiers de ça.
Mais c'est ce que j'adore avec... D'ailleurs, pour ceux qui ne connaissent pas cette émission, c'est justement des journalistes qui sont autistes et qui interpellent comme ça des personnalités. Donc, il y a Macron, il y a Gilles Lelouch,
Camille Cotin, Julien Doré.
Et parfois, ils balancent des questions... qu'on n'a pas l'habitude d'entendre, mais qui sont vraiment hyper purs, quoi. Genre, je me souviens que parfois, il y a des questions genre « Est-ce que tu as beaucoup de pognon ?» C'est juste ça la question, parfois.
Ça a été posé à Macron.
Oui, voilà, c'est trop bien.
Est-ce que tu pisses debout ?
Oui, voilà.
Est-ce que tu es chiant ?
Et je trouve ça trop bien. Voilà. Ouais, c'est génial. C'est génial.
Merci.
Et enfin, le 8e, justement, il y a un lien avec Jonathan Cohen, celui qui sortira en salle le 18 octobre prochain, Une année difficile, avec Jonathan Cohen, donc Pio Marmaille, Noémie Merlant, Mathieu Amalric.
Une anecdote dessus ?
Ouais.
Vu qu'on est en tournée en ce moment avec le film, il y en a aussi sur la tournée. Mais ça a été l'anecdote, c'est déjà il y a une chimie qui s'est passée avec les acteurs. Jonathan et Pio Marmaille se connaissaient pas et déjà il y a quelque chose de très fort qui s'est passé entre eux. Vous imaginez ces deux pur sang, un qui a les funny bones, qui est très très drôle, un autre qui est très dense, très 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 chargé. Et ça a été un tournage assez épique parce qu'il y a beaucoup de. En fait, on a tourné. Les deux saisons dans thérapie. Il y a eu cette période de Covid, donc on avait envie
d'ailleurs, j'ai eu la chance de voir le film il y a quelques jours, et j'ai vu l'easter egg, parce qu'à un moment donné, il y a un plan où on voit une pub pour En thérapie dans la rue. J'ai vu l'easter egg.
C'est nous. C'est nous qui nous autocitons dans notre accessibilité. Non, mais on peut le dire aussi, il y a des fois des contraintes qui sont motrices. On a eu une défection de la part de Alban Ivanov, qui devait faire le film et qui a eu un problème... qui n'était plus en état de faire le film pendant un moment. Et donc, Jonathan est arrivé au dernier moment. Il finissait le flambeau. Et ce qui est sympa, c'est que pour ceux qui verront le film, c'est un gars au bout du rouleau, un peu dépressif. Et il nous a dit, avant qu'on lui donne le scénario, écoutez les gars, je rêve de travailler, ça pourrait être formidable. Mais je suis vraiment, vraiment au bout du rouleau. Et je suis en... Je lui dis, mais c'est exactement le personnage. Il n'y a pas de problème, tu peux y aller direct. Et c'est vrai qu'on s'est... parfois, il y a des contraintes comme ça dans la vie qui vous amènent dans d'autres configurations. Et cette configuration a donné une étincelle avec Pio et un rapport d'un film, d'ailleurs, dont on voit, grâce à Jonathan, parce qu'il a un public beaucoup plus jeune que d'autres acteurs, en tout cas qui amènent un public vraiment de jeunes, on voit aussi la réaction d'une génération à ce film-là. Et c'est hyper intéressant ce qui se passe dans les salles. C'est pour ça qu'il a tout de suite parlé des salles, Olivier. C'est qu'il se passe quelque chose tous les soirs. On fait une tournée de 150 villes en France. Là, on repart sur les routes. On a déjà fait 75. On est à peu près à la moitié. Et c'est extraordinaire, la rencontre avec le public.
Alors, tout le monde joue très bien dans le film. Mais là, en l'espace d'une semaine, j'ai vu Yannick et Une année difficile, donc. Et Pio Marma, il est vraiment impressionnant, cet acteur, quoi. Il est vraiment très, très fort, quoi.
Ouais, c'est...
Puis, non, je faisais la remarque, là, récemment.
On l'a rencontré, nous, sur En Thérapie. Où il jouait ce papa, comme ça, en crise, dans son couple. Et c'est vrai que, ensuite, quand on le côtoie, on voit qu'il a une vraie folie. On voit qu'il a également un talent comique. Donc, il a la double nationalité, la densité dramatique et le talent comique. Et on avait envie d'aller plus loin avec lui. Et c'est vrai qu'il est en train de prendre une place incontournable. Bon, voilà, c'est son année. C'est vrai qu'il y a Yannick, il y a eu les Mousquetaires. Il y a eu La Fracture de Catherine Corsini. Enfin, voilà, il se révèle de film en film. Et c'est un vrai bonheur au travail, en plus.
Ceci, Jonathan Cohen, qui est un comique reconnu, je pense qu'il fera... Je m'avance, mais je pense qu'il fera aussi une carrière avec beaucoup, beaucoup de rôles profonds et dramatiques. Je pense qu'il a ça en lui, dans la machine aussi. Il a une fragilité, c'est parti certains des comiques comme ça qui arrivent à être très drôles parce qu'ils ont cette élégance de pas montrer ni qu'ils souffrent ou ni qu'ils sont parfois un peu... Mais il a quelque chose aussi de très puissant à l'intérieur et dans le film, à certains moments, on l'a amené là-dedans. Et donc, Jonathan aussi, les deux sont très intéressants. Et Noémie Merlant, bien sûr.
Ouais. Alors moi, j'ai vu le film, je dois dire que j'ai beaucoup aimé, je trouvais ça très drôle. Alors, je n'ai pas envie de spoiler, mais pour ceux qui iront voir le film, rien que les 15-20 premières secondes sont hilarantes. Voilà, j'ai trouvé ça direct. En fait, c'est sur un tambour battant parce qu'en fait, on ne s'y attend pas et on trouve ça trop drôle, quoi. Et il y a un truc que j'aime beaucoup chez vous, je dois dire, c'est la façon que vous avez d'installer des personnages et de nous les rendre sympathiques. Je trouve que c'est un de vos plus grands talents en tant que metteur en scène, je trouve.
Alors c'est vrai que ceux-là
sont plus antipathiques que d'habitude.
Ils sont plus antipathiques.
Ouais, c'est un peu des cracras, des profiteurs.
C'est vrai qu'il y a quand même à un moment donné...
Mais ils nous sont sympathiques quand même.
Une empathie.
Bien sûr. Ouais, le but, de toute façon, c'est à un moment, les personnages, il faut que les rendre aimables. Même s'ils sont... Et c'est un peu la référence qu'on a à la comédie italienne qui décrivait des mecs qui trompaient leurs femmes, qui étaient un peu des voyous, mais que tu arrivais toujours à trouver ce qu'on appelle les losers magnifiques.
D'ailleurs, je dois dire que on propose toujours... Enfin, c'est toujours les invités qui nous proposent des films. Aujourd'hui, j'ai choisi Il était une fois en Amérique. Mais il y avait aussi Le Fanfaron de Dino Risi que vous nous avez proposé.
Oui. Parce qu'on est fan de la comédie italienne qui a toujours mis en abîme et parlé de sujets très très durs avec beaucoup de légèreté. Et je pense que c'est une autre façon d'aborder les galères qu'on a dans la vie, les merdes qui nous arrivent, c'est d'arriver à s'en détacher par le rire. Et c'est quelque chose qu'on a toujours beaucoup travaillé avec Olivier, avec beaucoup de films, c'est comment justement le recul te permet de rire et de rire de nous-mêmes, de rire de ce qui nous arrive. C'est une forme de supériorité sur ce qui nous arrive finalement.
Une année difficile sort le 18 octobre prochain. Je vous conseille fortement d'aller voir ce film. Ils nous ont régalé d'anecdotes, non ?
Ils nous ont régalé d'anecdotes.
Moi, j'ai été régalé personnellement.
Moi aussi. Ça a foisonné.
Ça a foisonné. Vraiment.
Franchement, je peux les écouter parler.
Moi, j'en ai eu une sur Emule qui était pas mal aussi. Franchement.
Alors, Guillaume, dans Il était une fois en Amérique, on a affaire à des gangsters qui ont du métier, de la classe, du charisme.
On est retombé sur nos pattes, là, dis donc.
Ouais, bah, bien sûr.
C'est reparti.
Tout l'inverse de quelques gangsters qui ont tenté d'emprunter cette voie dans la vraie vie.
Est-ce que mes anecdotes vont être moins bien ? Peut-être. C'est possible. Est-ce que je fais la chronique en italien pour le côté mafia ?
Non, ça va.
D'accord, ça marche. Comme vous voulez. Alors, oui, c'est ma phrase de début. Comment sort ce florilège ?
Ah,
t'aimes bien celle-là ?
Oui, j'aime bien.
Par une légende du milieu, Charlie Luciano, qu'on appelle aussi Lucky Luciano. Est-ce que vous connaissez ce gars ?
Ouais, je connais.
Lucky Luciano. Il est né en 1897 à Naples et il part pour les États-Unis avec sa famille en 1907. Et c'est là-bas qu'il deviendra le chef de tous les chefs. Comment on dit le chef de tous les chefs en italien ?
Ah, capo.
Chapi-chapeau, ouais, ça marche. El capo di tutti capi.
Oui, voilà, c'est ça. Voilà.
Un des plus importants gangsters du XXe siècle, donc. Il a commencé sa carrière très tôt, puisqu'il quitte l'école à 14 ans et crée son propre gang, le Five Point Gang, qui offre la protection aux jeunes juifs de son quartier contre les gangs irlandais et italiens pour 10 cents la semaine. À 19 ans, il est déjà à la tête d'une petite fortune, seulement il est appelé à partir outre-Atlantique pour la Première Guerre mondiale. Il a peur de perdre toute sa fortune s'il s'engage, du coup il cherche un moyen de se faire réformer. Au départ plutôt réticent, il va suivre un conseil pour le moins singulier de ses potes. Mais que va-t-il faire?
Ah.
Alors
bah, j'hésite.
Il va à Vegas? Non.
Il va à Vegas? Qu'est-ce qu'il va faire pour se faire réformer de la Première Guerre mondiale?
Se blesser?
C'est un peu saugrenu. Hop, ça rejoint un peu ça.
Ouais. Il dit qu'il est enceinte.
Il dit qu'il est enceinte, pas mal. Alors, il y a un peu des deux. Il y a un peu des deux, il y a un peu du cul, et il y a un peu, ça va mal, attention. C'est parti, il va aller voir une fille de joie qui aura la chlamydia, il l'aura sélectionnée, pour contracter lui-même l'infection et être considéré comme inapte.
Ok.
Saugrenu.
Ouais, saugrenu. Ouais.
Saugrenu pour un chef de la mafia, et c'est à partir de là qu'il va se lancer dans le proxénétisme. Voilà. Eh bah oui, bah quoi? Bah c'est vrai. Eh bah oui, mon vieux.
Le raccourci était exceptionnel.
Eh bah oui, il s'est dit, tiens, pas mal. Bon délire. Alors, on continue avec une autre légende de la mafia, à savoir Benjamin Bugsy Siegel, le même nom que Tommy Bugsy. Né en 1906 à Brooklyn, qui est entre autres l'instigateur du Las Vegas tel que... Oh, bonjour.
Oui, bolé.
On continue avec une autre légende de la mafia, à savoir Benjamin Bugsy Siegel.
Ça dérape.
On pourra laisser ça, merci.
Juste, Eric et Olivier, qu'est-ce que vous pensez de la façon de parler de Guillaume? Ils répondent même pas.
Il répond même pas,
tellement ils sont choqués.
Aïe, il me jette des trucs. On continue avec une légende de la mafia, à savoir Benjamin Bugsy Siegel, né en 1906 à Brooklyn, qui est entre autres l'instigateur du Las Vegas tel qu'on le connaît aujourd'hui, et qui a inspiré de nombreux livres et de nombreux films, notamment celui qui nous intéresse aujourd'hui, à savoir, voilà, Il était une fois en Amérique, qui relate ni plus ni moins que son enfance. Voilà. Il est décrit comme un gangster people qui sort avec Lana Turner ou encore Ava Gardner et choisit Jean Harlow comme la marraine de sa fille. Il joue aux cartes avec Jack Warner ou Louis Mayer. Il traîne avec Cary Grant, Clark Gable ou encore Gary Cooper. Avec sa vie de jet set, il fait très attention à son apparence, figurez-vous. Et le père Bugsy, il était deg, parce qu'il perdait ses cheveux. C'est lui qui l'a dit. Je suis deg, je perds mes cheveux.
C'est pour ça que Tommy Bugsy s'appelle Tommy Bugsy. Ouais. Parce que tous les Bugsy s'appelaient. Ah, c'est ça.
Même Benny Siegel, c'est à cause de ça.
Ok, très bien.
Et Laura Luciano de Funky Family, c'est à cause de Loki. De toute façon, tous les
rappeurs, ils sont inspirés de la mafia.
Ouais, un peu, ouais. Même là, il n'y a pas longtemps, Freeze Corleone, bah Corleone.
Allez.
Oh, mais c'est marrant parce qu'ils prennent des noms de mafia. Mais dans la vie, c'est pas vraiment des mafieux, quoi.
Ah bon, qu'est-ce que t'en sais?
Non, mais je dirais.
Non, mais vas-y, provoque-le, sinon, de l'heure de venir.
Dans la musique, quoi.
Vas-y, dis-le à Freeze Corleone, dis-lui ça.
Non, en fait, je.
Je regrette.
Il y a une anecdote très secrète et plutôt ridicule pour un grand chef de la mafia et violent comme lui. Qu'est-ce qu'il a fait, à votre avis, pour retrouver ses cheveux?
Il a mis du gazon, non? Je crois.
Allez. Il a.
Non, attends, non, quand même, j'aimerais qu'on s'arrête là-dessus. Pourquoi cette blague du gazon, Aurélien?
Il est né. Mes parents viennent de changer la pelouse, c'est pour ça que j'ai pensé.
Allez, ça marche. À votre avis, quelle a été la technique pour ne pas perdre ses cheveux? Eh bien, il a eu recours, ni plus ni moins, qu'à la magie noire. Il a coupé une mèche de cheveux de bien épaisse d'un autre gars et il l'a brûlée lors d'une cérémonie dans sa chambre en espérant que ça repousse. Spoiler alerte pour tous les chauves qui nous écoutent, ça n'a pas marché. À la mort de Siegel, c'est Mickey Cohen qui a régné sur Los Angeles. Est-ce que vous connaissez Mickey Cohen?
Bien sûr.
Eh bien, il a été connu comme l'un des plus cruels patrons de la mafia et l'un des plus violents, mais il a une particularité plutôt mignonne, puisqu'il a plutôt un cœur sous la carapace, Mickey. Il a été dévoué corps et âme toute sa vie à son...
Chien.
Bien joué.
Non, je t'arrête, Guillaume, parce qu'il y a une légende qui dit qu'apparemment, quand t'es chauve, si tu mets de la pisse de je sais plus quel animal, les cheveux repoussent.
T'as essayé?
Non, mais c'est l'info que je te
donne. Ah, bah, c'est une bonne info. Ouais.
On sait pas c'est quel animal. Faut essayer.
Dites-nous sur Twitter si vous avez déjà essayé.
C'est un mec qui a tout essayé.
Mais alors, en tout cas, donc Mickey Cohen, qui était un des plus violents et un des plus durs, il a été dévoué corps et âme à son bulldog qui s'appelait Mickey Junior. Bon, voilà. Il disait qu'il préférait son bulldog et à sa femme. Il a pas eu beaucoup de femmes et il était pas très porté sur les meufs, apparemment. C'est ce qu'il disait. Mais. Il disait aussi qu'il préférait, voilà. Et même, il a fait construire une réplique de son lit à son chien, son lit miniature, et il dormait dans la même chambre que son maître. À la fin de sa vie, à la mort de son chien, il lui a fait une cérémonie, un enterrement avec un cercueil où tout le monde devait passer rendre hommage, etc. Pour une vraie cérémonie. Bravo, Mickaël, l'ami des bêtes, comme nous tous.
Ah, bien joué, c'est vrai.
Bravo.
T'es l'ami des bêtes, toi, rien ou pas?
Oui.
Eric, Olivier.
Oui.
Ah non.
Ah, pardon. Horrible de faire ça. Vous voulez une histoire méga bête? Ouais. Vous voulez une histoire méga bête? Allez, une histoire méga bête, c'est parti. Ça vous dit? C'est le genre d'histoire où on a envie de dire au protagoniste, mais tu t'attendais à quoi en fait?
Ouais.
Par exemple, dis-le.
Mais tu croyais quoi en fait?
Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. En 1992, Tommy Uva sort de prison et il a besoin d'argent pour lui et sa femme. Lui vient une idée lumineuse d'aller braquer des clubs, mais pas n'importe lesquels. les clubs appartenant aux familles Gambino et Bonanno, les deux familles qui règnent en maître sur la mafia new-yorkaise dans les années 90.
Mais pourquoi eux ?
La logique est effectivement pas mal, puisque effectivement sur place, il y a énormément de cash.
Oui.
Eh ben oui, c'est très malin.
Donc il le sait que c'est des gros mafieux.
Ah bah oui, c'est très malin. Ouais. Il se dit, bah génial, je vais aller les braquer, je vais arriver cagoulé et tout va bien se passer. Il débarque donc un jour armé d'un Uzi dans les clubs, dans un des clubs, et ils prennent tout l'argent et ils demandent à tous les hommes sur place d'enlever leurs pantalons. Comme ça, ils ne peuvent pas leur courir après. Oh, donc, ils mettent les pantalons sur les chevilles et après, ils sont en galère.
Alors, figure-toi que c'est quelque chose qui est utilisé dans un film que je viens d'en voir il n'y a pas longtemps qui s'appelle « Quatre garçons pleins d'avenir ». Vous connaissez
ce film français ? Ah, bah, bien sûr.
Et à un moment donné, ils braquent des gars puis ils leur demandent de mettre le pantalon. Eh ben, voilà. Bah, tu vois, ils sont pareils.
Bah, bonne technique. Fort de leur succès, ils décident quelques jours plus tard de braquer un autre club à Little Italy. Et là, même recette. Ils débarquent, ils prennent l'argent, ils demandent aux hommes sur place d'enlever leurs pantalons, mais surtout, et c'est là...
C'est l'humiliation.
C'est là que l'humiliation est totale. Ils arrachent le toupet d'un vieux qui était sur place. Ils arrachent la perruque d'un vieillard qui...
Mais attends, ils sont cagoulés et tout.
Ils sont cagoulés, mais okay. C'est juste un couple. Hein. Et alors,
attends,
ils
arrachent... C'est fou cette histoire.
Ils arrachent la perruque.
Ton histoire est folle, Guillaume.
Écoute, ils arrachent la perruque du vieillard qui met trop de temps à vider la caisse. Et là, c'est l'humiliation de trop pour les familles. Ils ont dit, attends... Encore, on baissait nos pantalons, piquer la thune, ça va.
Bon, alors, c'était déjà trop, ça.
Non, mais c'était déjà trop. Mais ils ont mis un contrat, tu sais comment dire, un contrat libre sur leur tête. Finalement, ça a duré, quand même, ça a duré 6 mois. Ils ont volé 2 clubs, mais ils ne les ont pas retrouvés pendant 6 mois.
Manquait pas de toupet, j'ai envie de dire.
Et finalement, le matin de Noël, en 1992, ils sont à un feu rouge dans leur voiture et ils sont liquidés chacun de 3 balles dans la tête. Et on déclenche l'accélérateur, ils finiront dans un lampadaire. Visiblement, la calvitie est un sujet sérieux chez les mafieux.
Ah. Allez. Ah, mais attends, mais comment ils ont su que c'était eux ? J'imagine que t'as pas l'info.
Ben non, ils ont trouvé quoi.
Ouais, mais comment ?
Ah, ça, je sais pas. Ça.
Eric, Olivier, une idée ?
Oui.
Ah, c'est juste où il répond.
Ah, il dit juste oui.
Oui.
Alors, donne la histoire. Alors, j'ai une question pour vous. Qu'est-ce qu'il y a ? Elle va être bien montée, celle-là. Qu'est-ce qu'il y a de plus débile ? Qu'est-ce qu'il y a de plus débile que de vouloir voler les clubs de la mafia ? Eh bien, tout simplement, vouloir cambrioler la maison du boss de la mafia de Chicago. Nickel. À savoir, Anthony Accardo, surnommé Joe Batters. Et pourquoi ? Il était surnommé Joe Batters par Al Capone parce qu'il avait l'habitude d'éclater des têtes de ses ennemis à la batte de baseball. Un charmant monsieur.
Ce qu'on voit d'ailleurs en inspiration dans Les Incorruptibles.
Exactement.
Bien joué, Aurélien.
L'histoire... Et moi, pas bien joué, moi. Rien. Moi, j'ai rien, jamais.
T'inquiète pas.
L'histoire a eu lieu en 1978. Un groupe de voleurs, alors ça commence comme ça. Un groupe de voleurs s'est introduit dans une maison pour dérober 1 million de dollars de bijoux. Pas mal, bonne pioche. Mais mauvaise pioche parce que les bijoux appartiennent à un ami fidèle du big boss de la mafia. Donc après négociation, et pas, ils n'ont pas tué ni rien, ils ont négocié et ils ont été obligés de rendre la marchandise. L'histoire pourrait s'arrêter là. Ils pourraient se dire, bon, on a frôlé le désastre. Ouais. Mais non, puisqu'ils sont complètement cons. Ils se sont dit, on va se venger de l'affront et on va voler le big boss. C'est comme ça que ça va se passer. Il veut pas qu'on vole ses potes, on va le voler lui. Très bien. Alors, ils ont essayé de le voler. Ils sont rentrés dans la propriété de Anthony Accardo. Et finalement, Anthony Accardo, ils s'en est rendu compte. Ils ne sont pas allés bien loin puisqu'il a demandé à son homme de main, Anthony Spilotro, qui a inspiré le rôle de Joe Pesci dans Casino, de s'occuper de leur cas. Là, ça finit un peu glauque. Le corps des voleurs et tous ceux qui ont été impliqués dans l'affaire se sont retrouvés aux quatre coins de Chicago complètement égorgés. Et alors, 7 corps en tout, dont un particulièrement malmené, de par ses origines italiennes, ça a été considéré comme une trahison suprême. Et donc, il a été castré et éventré. Voilà, c'est la fin de la chronique.
Moi, j'ai trouvé que c'était une très belle chronique.
Oui, ça devait être fun, mais c'est compliqué de faire fun avec la mafia.
Mon histoire préférée dans ta chronique, c'est celle du couple braqueur.
Bah, tu sais que le couple braqueur, je me suis dit, ça ferait un bon scénario de film et j'ai envie de le proposer aux invités du jour. Vous en pensez quoi ?
Moi, j'ai adoré.
Ah, ouais, super.
Ok. Alors, Eric et Olivier, j'ai parcouru votre bio et j'ai lu quelque part qu'il y a 2 choses que vous aimez par-dessus tout dans la vie : vos proches ainsi que les infos croustillantes. Est-ce que vous pouvez me confirmer ça ?
Je confirme, je sais pas où on a
ouais,
dit ça, mais
oui, c'est, on confirme.
J'ai complètement inventé.
On aime les choses croustillantes en général.
Et on aime nos proches croustillants.
Ah, bah écoute, bah, c'est parfait. Parce que j'ai plein d'infos croustillantes sur Il était une fois en Amérique.
Ouais.
Ah, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu des infos croustillantes.
Mais ça fait longtemps, vous êtes content d'en avoir, vous ?
Oui. Un produit italien qui croustille, comme ça.
Les espèces de tiges de pain.
Et
là,
les graisses.
Les graisses, moi, j'aime pas trop.
Ah, moi, j'aime bien.
Moi, ça me casse l'appétit avant de manger des
pâtes. Mais c'est facturé.
Ah bon ?
Ah, c'est facturé.
Très bien.
Voilà, je vous donne l'info.
Bah, est-ce que ce serait pas la première info croustillante ?
Ah, ça croustille.
Non, mais si, bien sûr. Alors, pour commencer, figurez-vous que le premier montage du film durait 9 heures. Sergio Leone a coupé pour arriver à un montage final de 6 heures. Il a donc proposé au studio de sortir deux films de 3 heures, proposition qui a été refusée. Au final, on a donc un seul et même film qui dure 3h49 ou 4h11, c'est selon.
C'est quand même un délire, ça voudrait dire que tu rentres au cinéma à 10h du mat, tu sors à 19h.
C'est relou.
C'est une journée de taf.
D'ailleurs, lorsque le film est sorti dans sa première version au cinéma, il ne durait que 2 heures, ce qui pourrait expliquer pourquoi il n'a reçu aucune nomination aux Oscars et pourquoi il a reçu un accueil mitigé. Ce n'est qu'après sa sortie en cassette vidéo, avec une version de 3h49, que le film a reçu un accueil plus conforme à ce qu'il est vraiment.
Mais alors, qu'est-ce qui a été enlevé dans la version de 2 heures, ce qu'on sait ?
Oui.
Quelle partie ?
Beaucoup de scènes et de séquences.
Où se situait le point de montage, voilà, sur le Final Cut ?
C'était ça. Alors, vous savez que Robert De Niro aime préparer ses rôles à la perfection. Et lorsqu'il incarne un perso, il aime rencontrer des personnes dont il pourrait s'inspirer. Pour ce film, il a donc contacté le boss de la famille Luciano, Meyer Lansky, qui lui a répondu « Vas-y, casse-toi, laisse-moi tranquille, toi. »
Il lui a dit ça ?
Alors, il lui a pas dit vraiment ça. Mais il fallait que j'apporte un peu de drama à ça. Il a juste dit non, quoi.
Comment ça ferait en italien, par exemple ?
Pronto...
Castate.
Castate. Voilà ce que c'est. Ok.
catastrophe.
Alors, pour ceux qui suivent le foot,
ah oui,
vous avez vu ce qui... Oui,
ouais,
Guillaume est un gros fan. Ton équipe préférée ?
Le Milan AC.
Milan AC. Alors, pour ceux qui suivent le foot,
comme moi,
vous avez vu ce qui se passe avec Mbappé. En gros, ce serait lui qui déciderait qui doit venir ou non au PSG. Non, mais ça, c'est pas possible, ça. Il en roule, il en Il mange des gros bonbons. Des gros arrivants. Il mange des gros bonbons.
Relis se régale.
Alors, donc oui, Mbappé. En gros, ce serait lui qui déciderait qui doit venir ou non au PSG.
Bon.
Voilà, bah si, bah, c'est ce que fait Mbappé. Eh bien, figurez-vous que De Niro a eu cette même position avec Il était une fois en Amérique, puisque c'est lui qui a choisi les acteurs avec Sergio Leone. C'était une de ses demandes pour jouer dans le film.
Et c'était une question de novice, mais il a joué dans quoi le petit qui joue De Niro, qui joue Noodles petit
après ? Et ben, et après il avait fait rien, pas grand chose.
C'est fou.
Tous les petits n'ont pas fait grand chose après.
Alors qu'il est méga bon.
Ouais, il est bon. Pour vous donner une idée de l'importance d'une bande-son de Ennio Morricone dans un film, ses compositions étaient souvent jouées pendant les scènes afin que les acteurs soient dans le bon mood.
Ouais.
Oh, génial.
T'as trouvé ça génial vraiment ?
Ah ouais ?
Ouais, super.
Avec le joueur de flûte de La Chèvre, ça m'a régalé ça.
Une des raisons qui ont motivé Sergio Leone à réaliser ce film, c'est d'abord un regret, puisque Leone a refusé de réaliser Le Parrain, son plus gros regret donc.
Ah ouais.
Il a souhaité se rattraper en tournant son premier film de gangster Il a souhaité se rattraper en tournant son premier film de gangster, lui qui était habitué au genre du western.
Tu nous apprends de belle là ?
Bah bien sûr.
Tu nous en apprends de belle ?
Bien sûr.
Ça voudrait dire sinon.
Bah c'est
tu nous apprends de belle, ça voudrait dire. Oui.
Sergio Leone, ah, celle-là, elle est pas mal. Sergio Leone s'est inspiré de grands peintres pour réaliser son film, Reginald March, Edward Hopper, Norman Rockwell, et le français Edgar Degas pour les scènes de danse principalement, parce que si vous tapez Edgar Degas, le peintre,
ouais, les danseuses.
Il y a plein de danseuses, et ouais. Il s'est inspiré de ce peintre pour faire les scènes de danse avec Jennifer Connelly. Voilà. Deux cracks ont refusé le rôle joué par Robert De Niro, Al Pacino, Nicholson, c'est concis comme info, ils ont dit non,
ah
on
ouais
veut pas faire ce film, Nicholson, Pacino, voilà.
C'est fou ça.
Bah oui, c'est fou. Plutôt, je parlais du souci du détail à propos de ce film. Sachez que de 1980 à 1982, Sergio Leone a voué sa vie à ce film, auditionnant 3000 acteurs et actrices, visitant des locations, travaillant encore et encore sur le script, etc. Pendant 2 ans, sa vie, c'était ça, chaque jour.
En même temps, ça se voit qu'il y a, tout dans le film.
Bah oui, non, mais ça se voit, bien évidemment.
Même par rapport au film d'avant, tu vois.
Mais souvent, c'est ça, je me dis, tu fais un film, là, il dure 9 heures, et tout, t'as mis toute ta vie dedans, etc. Ce soir, les gens, ils font... Oh,
alors,
t'as un producteur qui dit, oh, faire ouais, un film de 2 heures pour qu'il comprenne quelque chose.
J'ai décidé d'être complètement transparent avec notre audience.
Mais quoi ?
Non, mais je vais le dire, je vais être complètement transparent avec notre audience. Ce podcast dure longtemps et il y a eu des points de montage parce que Olivier Nakache et Eric Toledano avaient rendez-vous avec Noémie Merlant, l'actrice du film, et ils ont dû partir. Mais on a quand même enregistré la fin avec eux, si bien que si là vous n'entendez pas de réaction de.
Ah, parce que pendant ma chronique, on va pas le dire.
Non, non, mais je vais le dire. Si là vous n'entendez pas de réaction de Nakache et Toledano, c'est qu'ils ont dû partir un peu en avance. Donc là, ils auraient trouvé les anecdotes géniales. Et pendant la chronique de Guillaume, pareil, ils ont dû partir au milieu de ta chronique.
Ouais,
donc ils n'ont pas réagi, mais ils auraient trouvé tes infos très très bonnes.
Ah bon ?
Surtout les petits chiens là.
Surtout ouais. Les petits chiens, ils auraient adoré.
Dites-moi en commentaire s'ils auraient trouvé mes infos bonnes.
Mais grâce à la magie du montage, ils vont revenir dans quelques instants.
Après, je peux faire le doublage des voix si vous voulez.
Je l'enlèverai ça. Non, ils vont se foutre de nous, quoi. Ok, voilà, donc maintenant vous savez tout.
Oui, prego.
Vous savez tout. Donc ils auraient adoré ces anecdotes croustillantes. En plus, je leur demande justement, est-ce que vous adorez les anecdotes croustillantes?
T'as vu, bah, tu vois ce que ça fait quand tu fais des anecdotes quand il n'y a pas les invités. Moi, je fais mon chronique, il n'y a pas les invités. Il dit oui, c'est bon, t'inquiète. Mais non, c'est pas bien. Mais toi, ça fait chier.
Non, mais alors, je dois dire quand même qu'ils ont réagi à ton début de chronique.
Ah oui.
Olivier Nakache a dit Easy Offer. T'as adoré Easy
Offer.
Oui,
et après, voilà. Il a dit ouais, je me barre.
Alors, selon l'enfant qui joue De Niro jeune, tu m'en parlais justement.
Oui, oui, tout à fait.
Personne sur le set ne parlait anglais. Tout le monde, tout le crew était italien et le seul mot que Sergio Leone maîtrisait était goodbye.
Ah ouais.
Ouais, ça parlait italien, ça parlait pas anglais.
Ah bah dis donc.
Ouais, c'est marrant. Eh bah ouais, bah, tu trouves ça marrant.
Ah, on va prendre
En fait, ce qui est marrant, c'est que je me rappelais pas que c'était pas. Enfin, c'était pas que des Italiens dans les Tétufo en Amérique.
Donc, tu essaies de faire de ma news une fake news.
Ah non, parce que Sergio Leone, pour le coup, est italien. Et oui. Le Morricone aussi. Mais ce que je veux dire, c'est que j'avais un souvenir, comme le parrain, que c'était en grande partie de la mafia italienne. Et en fait, non, c'est la mafia juive.
Oui, c'est vrai ça.
Oui, exact.
Je n'avais pas ce souvenir-là. Et en fait, je crois que c'est le plus gros film fait sur la mafia juive.
Ouais, c'est très vrai ce que tu dis.
New York, je trouve ça fou.
Dans le film, De Niro se rend dans un cimetière et entre dans un mausolée où se trouvent ses trois anciens amis. Ce mausolée existe vraiment. Et à l'intérieur se trouve le corps de John Gates, le fondateur de Texaco, qui est la compagnie pétrolière la plus connue des États-Unis.
Ah ouais.
Durant de longues années, Texaco était la seule entreprise de ce type aux États-Unis. Je balance cette info s'il y a des fans de pétrole.
Attends, il est énorme ce mausolée.
Des fans de pétrole. Bah, Texaco.
Je suis fan de pétrole.
Je suis fan de pétrole. Eh, c'est sûr qu'il y a au moins un fan de pétrole sur Terre.
C'est-à-dire
bah, je sais pas, il aime bien les histoires
il
de pétrole.
Il connaît toutes les marques de pétrole.
De pétrole.
Pétrole.
Bah, je le régale avec cette
info. D'ailleurs, cette scène, je me dis, j'ai pas très bien compris pourquoi De Niro il rentre et regarde le plafond pendant 3 heures.
Je sais pas.
Non, c'est vrai. Mais tu poses des bonnes questions.
Après, ouais. Il ouvre la porte pour qu'on voit ce qui se passe à l'intérieur et après il la referme et il s'assoit. Et là, je me suis dit, qu'est-ce qu'il veut dire ?
Il veut être tout seul dedans.
Oui, bien sûr.
Ouais.
Figurez-vous que.
Tu t'adresses pas aux deux experts.
Figurez-vous que John Belushi devait passer l'audition pour jouer Max, donc le rôle de James Woods,
ah oui.
Mais est mort quelques jours avant d'une overdose.
Oh ouais,
mais il est soufflé par mon anecdote.
C'est choc ça.
Bah ouais, il est soufflé par mon anecdote.
T'es fou.
Quel visage James Woods là.
Ouais.
Ouais non incroyable.
Oh là là. À la fin là quand il a ses lunettes et tout, quand il
est là j'ai une anecdote, elle est immensément croustillante.
Ah ouais.
Tout à l'heure on parlait. Oui mais attention parce que là tu rigoles mais on va parler de la scène de viol.
Ah.
Tu rigoles moi.
Je rigole pas.
Si, si.
J'ai pas rigolé.
Alors, la fameuse scène de viol dans la voiture, on prend tous notre sérieux.
Il y en a deux. Hein.
Oui, il y en a deux, c'est vrai. Les deux sont terribles.
Par le même mec en plus. Tu te dis, ça s'est pas très bien passé.
Ouais, c'est une horreur.
Donc, la fameuse scène du viol dans la voiture, eh bien, figurez-vous que vous vous souvenez tous qu'il y a un chauffeur.
Oui.
C'est dans une limousine et il y a un chauffeur.
C'est vrai.
Eh bien, ce chauffeur, ce n'est pas un acteur, c'est un producteur qui s'appelle Arnon Milken. Et ce producteur. C'était tout simplement le petit ami de l'actrice
mais non.
Qui se fait violer à l'arrière.
C'est horrible.
De Niro a eu cette idée. Il est allé voir ce producteur. Il a dit, mais attends, c'est ta meuf. Vas-y, je joue le rôle du chauffeur. Comme ça, tu seras vraiment horrifié par ce qui se passe derrière et tu joueras bien, quoi. Et lui, il était en mode, bah...
Franchement, c'est vrai.
Ouais, pourquoi pas, tu vois.
En même temps...
Et ils ont dû refaire la scène plein de fois. Oh. Donc lui, il entendait sa petite amie simuler un viol derrière. Et ce qui est terrible pour lui, c'est qu'en fait... Apparemment, il n'était pas très bon acteur.
Ouais.
Et Sergio Leone a fait doubler ses voix par quelqu'un d'autre. Il avait juste à dire « Are you alright ?» Et il a, même ça, il l'a fait doubler. Donc l'expérience, elle est terrible pour lui.
Après, De Niro, il lui file un billet.
Et il le refuse.
Dit, merci, ça ira et tout. Il se casse.
Non, il dit rien, il repart. Il le refuse.
Si, si, il dit merci, ça ira.
Oui, d'accord.
D'accord. D'accord.
Et donc voilà. Donc, c'est une bonne anecdote, ça.
Et après, ils sont restés ensemble
Bon, je sais pas.
Ah bah voilà, bah, il a pas fait son travail jusqu'au bout.
Bah tu sais, moi j'ai pas ma carte de presse. Hein.
Alors, c'est dur cette anecdote.
Ah, ouais, elle est dure. Mais et pour terminer, oui.
Non, mais c'est un peu glauque en fait.
Oui,
c'est glauque. Non, mais le film il est glauque.
Oui, le film est glauque.
Bah, c'est glauque.
Là on est de retour, c'est un film un peu glauque.
Ouais.
On est là, ouais, il se fait poignarder, éventré.
D'ailleurs, si vous en souvenez, dans la scène, dans une des premières scènes où le jeune De Niro, enfin le jeune Noodles, observe la jeune danseuse.
Ouais.
Elle se déshabille devant lui alors que c'est un enfant de 11 ans.
Ouais, ouais, ouais.
Et quand même, je me suis dit, attends.
Ça m'a choqué aussi.
Est-ce que... Ouais, ça m'a choqué. Je me suis dit, je fais des recherches après. Je me suis dit, est-ce que Sergio Leone a vraiment demandé à la jeune Jennifer Connelly de se mettre à poil et tout ? C'est une doublure.
Ouais.
C'est une adulte doublure, en fait.
Okay.
Ouais, bah, quoi, ouais, bon.
Bah oui, mais bon, j'essaie d'apporter un peu moins de glauquitude.
Oui, t'as bien raison.
Tu vois, là, ça m'a choqué, je trouve, dans les autres films, notamment de Coppola. Les méchants, genre les mafieux, ils sont méchants. Mais tu sais, il y a un délire de code un peu où il y a des choses qu'ils font pas.
Non, ici, c'est des brutes.
Tu vois, Pacino et tout, tu te dis, tu t'aimerais bien être Pacino parce que c'est le parrain.
Oui, non, ici, c'est des brutes.
Tu vois, il tue son frère. Mais
oui, mais ça, ouais, mais ça vient de ces westerns vraiment sales d'avant.
Ouais, quoi, c'est vraiment Darkos, ouais, c'est dark. Des horribles types, tous, en fait.
Et pour terminer, figurez-vous qu'en octobre 75, Sergio Leone pensait déjà à réaliser Il était une fois en Amérique, et dans sa tête, et ça, ça va régaler Guillaume, cette info, il avait un casting complètement différent, il voulait que Depardieu joue Noodles.
Ouais. Pah
le rôle principal, donc. Richard Dreyfus pour Max.
What?
James Cagney pour Noodles, version vieux. Alors, James Cagney, pour ceux qui ne connaissent pas, c'était le crack qui jouait des gangsters dans les films de la Warner des Scarface. Années 30, 40, etc. Hein. Et pour Max, vieux, il voulait Jean Gabin.
Mais non.
What?
Bah ouais. Il voulait Depardieu, Gabin, Cagney et Dreyfus.
Ah, c'est fou.
Ça t'aurait plu, Guillaume?
Ah ouais.
Que Gabin joue Max, t'aurais aimé ça, non?
Incroyable, ça.
Bah ouais.
Allez, bah, cette anecdote.
Bah, ça t'a soufflé, cette anecdote.
Ah, je suis soufflé, là.
Bah oui. On approche désormais de la fin de ce podcast, mais avant de se quitter, le segment du dernier et de la dernière, tout ce que nos invités ont accumulé culturellement ces dernières semaines. Première question, le dernier film que tu as vu au cinéma, et je vais commencer par Eric.
Moi, c'est Yannick, de Quentin Dupieux.
T'as aimé ?
J'ai beaucoup aimé.
Très bien. Olivier ?
Moi, c'est hier, Anatomie d'une chute.
Ouais.
La Palme d'Or, voilà, on va se voir tous les deux, toutes les Palmes d'Or, en se disant, si ça a une Palme d'Or, c'est qu'il y a quand même quelque chose. Et c'est vrai que là, c'est quand même un film. Et là, je crois que c'est la première fois qu'une Palme d'Or cumule autant d'entrées et une Palme d'Or.
Très bien. Le dernier film que tu as vu via une plateforme, Eric ?
Moi, j'ai vu Cash, je fais un petit focus sur Raphaël Quenard en ce moment, donc ouais. J'ai regardé ce truc sur Netflix.
Très bien.
J'ai bien aimé aussi.
Non, moi, je n'ai pas vu de film sur une plateforme récemment.
Ouais.
Je vois des docs sur les plateformes, mais pas
lequel,
pas de film.
Lequel, du
coup ? J'ai vu les quatre parties de Schwarzenegger.
Ah, oui. Ah voilà. C'était cool, ça. Hein.
Ouais, c'était bien.
Qui est assez incroyable, assez incroyable.
Eh bien, du coup, je te conseille celui sur Michael J. Fox, qui est sur Apple TV, qui est très bien aussi.
Ah, bah, on en a parlé.
Qui est très, très cool. La dernière série que tu as regardée, Eric ?
Alors là, c'est en commun. C'est sur Disney, ça s'appelle Anatomie d'un divorce. Et c'est avec Jesse Eisenberg et on a adoré.
Incroyable. Il y a toujours Anatomie dans ce qu'on
dit. Ouais, c'est ce que je vois. La dernière chanson que tu as écoutée ?
Alors moi, c'est un truc qui s'appelle Anchor Point. Et c'était le tube de l'été chez les ados. Et voilà, c'est un DJ marocain qui a fait ça et je trouve ça super.
Moi, c'est Espace-Temps de l'ED. Je crois que ça se dit comme ça. Qui a une musique que j'ai écoutée toutes les vacances, suggérée par un de mes fils. Et on l'a en tête.
Ça me fait chier d'entendre. Je pourrais dire que le temps passe, mais bon, je veux pas te faire un remake. Tout naze des necks marrons. Je m'exaspère à chaque seconde. En 2D, je suis un hexagone. Dès que je kick ma race, tu peux dire peu à ton âme. Et j'aimerais que toute l'Afrique connaisse mon putain de place. Je me casse en West, afin première putain de classe.
Très bien, le dernier livre que tu as lu ?
Moi c'est Abel Quentin, Le Voyant des Tempes, c'est un chef-d'œuvre.
Ok, ça parle de quoi ?
Ça parle d'un mec qui se réveille, qui a 60 ans, qui est prof d'université, et qui se réveille dans un monde auquel il ne comprend plus rien, parce qu'il a écrit une nouvelle et il a oublié de parler du fait que le mec était noir, et on l'accuse de racisme, et ça se prend toute l'époque dans la tête, et de lui-même se remet en question, il ne sait plus, et puis ça fait une polémique qui enfle sur Twitter, sur les réseaux, tout le monde se met contre lui, et comment un gars de 60 ans se rend compte qu'il n'est plus synchrone avec son époque.
Très bien, Olivier.
Et moi, je suis en plein dedans. C'est Jablonka sur Goldman, une bio de Goldman. Et c'est assez fascinant parce qu'il essaye d'analyser comment, en étant aussi absent, on est aussi présent.
Très bien. Meilleure chanson de Goldman, Guillaume ?
La meilleure ?
Ouais.
C'est dur.
Allez, là, balance-moi une.
Comme toi.
Merci. En tout cas, c'est merci. Dur. Le dernier objet culturel que tu as acheté ? Alors, ça peut être un DVD, un t-shirt lié à un film ou un groupe de musique, peu importe.
Alors, ça aussi, on l'a acheté ensemble. Ah. On a fait une tournée et on a été à Épinal et on a essayé de comprendre l'origine l'anecdote de l'expression, pardon, c'est une image d'Épinal. Et en fait, il y avait des images d'Épinal à acheter et en fait, c'est des images de clichés. Qui existent et donc on les a achetés ensemble. C'est des dessinateurs qui sont à Épinal et qui font toutes les images d'Épinal.
Donc c'est ça les images d'Épinal ?
Les images d'Épinal, c'est tout ce qui. Ah, voilà, c'est ce qu'on dit. Dès que c'est un truc classique. Ouais. Pourquoi ? D'où ça vient ? Tu te rappelles l'anecdote ou pas ? Toi qui es plus.
Bah, d'Épinal.
Exact. Voilà.
Et enfin, le dernier artiste que vous avez suivi sur Insta ou sur Twitter, peu importe.
Alors, ça a un rapport avec ce que tu disais tout à l'heure sur l'émission Les Rencontres du Papotin. Il y a un groupe qui s'appelle Percu Jam, qui est un peu l'équivalent du Papotin, mais en musique, et qui font carrément des concerts, ça commence à marcher. C'est des artistes autistes, on va dire atypiques, qui jouent de la guitare, qui chantent. Et donc, on s'est abonné à eux récemment, Percu Jam.
D'ailleurs, ils font partie de certains épisodes des Rencontres du Papotin.
Je sais, c'est eux qui chantent. Figurez-vous, je me suis renseigné sur eux il n'y a pas longtemps. Parce que dans leur groupe, il y a ce type qu'on voit souvent dans les Rencontres du Papotin, qui a cette voix un peu de politique.
Stanislas, voilà.
Il est incroyable. Très bien, ce podcast est désormais terminé. Eric et Olivier, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur votre actu? Parce qu'il n'y a pas que la sortie d'une année difficile, il y a donc les Rencontres du Papotin. Est-ce qu'il y a autre chose comme ça qui va arriver dans les prochains
mois?
Oui,
il y a un documentaire qui se prépare sur l'aventure en thérapie, qui passera sur Arte. Et il y a aussi un documentaire qui se prépare sur l'aventure du Papotin, qu'on produit et qu'on supervise. Voilà. Et un nouveau film qu'on essaye d'écrire dans les tournées, et surtout, tout un tas de villes en France dans lesquelles on va tourner jusqu'à mi-octobre.
Parfait, merci.
Merci infiniment.
Merci. Hein.
Voilà, c'est la fin de cet épisode. Eric et Olivier, merci d'être passés. Et à vous les auditeurs, sachez qu'on est heureux de vous retrouver avec ce format qui nous et vous accompagne depuis 2 ans. Alors, juste pour clarifier un peu la chose, avant il y avait 2 épisodes par mois, d'accord ? Toujours le même principe avec un invité, on parle d'un vieux film, etc. Maintenant, il y aura un épisode par semaine.
Wow !
Par semaine, tu as raison de dire bla et pop pop pop.
Mais je savais même pas.
Ce sera un épisode, donc vous pourrez nous retrouver. Donc vous pourrez nous retrouver tous les jeudis. C'est quand même magnifique.
À quelle heure ? Le matin.
Quand vous voulez. Je le mettrai en ligne le matin. Vous serez dans le métro, le petit running. Ouais, bah ça va bien. Donc il y aura une... Alors jeudi, 2 épisodes classiques où on a un invité comme avant. La chose nouvelle, c'est qu'on va parler d'actu ciné aussi maintenant.
Ah oui.
Ouais.
Bah oui. Donc maintenant, on va aller voir des films. On va s'attribuer un film à chaque fois, puis on va en parler. On va refaire aussi le format où on parle de vieux films qu'on a aimés.
Parce que c'est vrai que souvent, vous nous dites, ouais, vous êtes des experts, vous êtes super intelligents, etc. On voudrait votre avis sur la nouveauté.
C'est vrai qu'on nous dit souvent ça.
Enfin, moi, je sais pas vous.
Moi, parfois, on me dit juste, t'es super intelligent, on me demande rien d'autre. On m'envoie ça comme
oui,
message.
Oui, moi aussi.
Ah bah tiens, Aurélien,
ouais.
Toi, oui.
Aussi. Ouais, bon, on compare toujours au mec à la guitare dans les films de.
Dans Délivrance.
Mec acheté non.
Ah, Délivrance.
La blague de cinéphile.
Très bonne blague. Très bonne blague de cinéphile. Ok, voilà. En tout cas, l'info, c'est qu'on sera là une fois par semaine pour notre plus grand bonheur, parce que moi, je suis ravi de vous avoir retrouvé, les gars.
Ah oui, moi aussi.
On n'est pas bien ici. Nouveau studio, oui. Nouvelle saison, nouveau oui. Format. On est bien ou pas là, non?
On est très très bien.
Ah, je suis ravi de vous avoir avec moi. Donc voilà, toutes les semaines. J'ai plus qu'à vous dire au revoir, on se retrouve la semaine prochaine et puis voilà quoi. Hein ?
Bah ouais.
Oui.
Avec plaisir.
Bon. vous dites au revoir aux gens quoi.
Au revoir tout le monde.
Allez, salut, à la semaine prochaine.
Bah non, pas la semaine prochaine, si.
On se retrouve toutes les semaines.
Toutes les semaines.
C'est toutes les semaines.
Ah, toutes les semaines.
À jeudi prochain.
Et ben je serai là.
Au revoir.
Au revoir.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.